Une erreur est trop belle.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le samedi 9 décembre, il est 10h. Et comme à chaque fois, le deuxième samedi de chaque mois sur les ondes de 48FM, vous écoutez L'Erreur est urbaine, l'émission mensuelle d'Urbagora sur la ville. Au sommaire de ce numéro, je vous propose avant tout un grand dossier, un dossier sur les prisons. Pourquoi ? Parce que la revue Dérivation sort son cinquième numéro, dont le dossier principal justement est consacré aux prisons. Nous aurons donc le grand plaisir, Kitri et moi, de recevoir David Tillman, qui est architecte et criminologue, et Lucas Pidiou, journaliste indépendant qui anime ici sur les ondes de 48FM Voix Solidaire et qui viendra nous apporter son expertise de journaliste qui a coordonné ce dossier-là. On aura aussi les chroniques habituelles, Pavel, Justine et Mathieu ce coup-ci. La nouvelle rubrique du mois passé, Dis-moi ta ville, donne ça la parole cette fois-ci à Bénédicte Macatori, qui travaille à l'université, mais qui est par ailleurs administratrice de la SBL Songe et qui viendra nous amener un peu son expérience de la ville, elle qui a vécu à la fois à Liège, mais aussi à Niamey, au Niger. Et pour le tour de la question, j'aurai le plaisir de recevoir Christophe Breuer, qui viendra nous expliquer les enjeux de supracommunalité à Liège, notamment les conclusions du colloque qui a eu lieu le week-end du 24 et 25 novembre à l'université, co-organisé par Urbagora et l'université, et qui viendra amener son expertise et la réponse à toutes ces questions. Et donc on commence sur les chapeaux de roue avec une chronique de Pavel. Salut Pavel.
Salut Baptiste.
Aujourd'hui, tu nous parles d'un sujet fondamental, essentiel, voire quelque part philosophique.
Ah, complètement.
C'est-à-dire la barrière Nadar. On t'écoute.
Merci. C'était en 2014. Je revenais d'un long voyage qui s'était terminé à la gare des Guillemins. Je rentrais chez moi à pied. Les quais de Rome venaient à peine d'être refaits. Je me rappelle, l'aube se levait alors, annonçant une belle journée d'été. Les nouveaux aménagements se déroulaient devant moi, encore vierge de tout mobilier. Il y avait le boulevard, impeccable et à la végétation alors en friche. Il y avait la butte herbeuse et ses quelques arbres, où ne s'étendaient pas encore celles et ceux qui aiment bronzer. Il y avait le quai, à proprement parler, plat, long et intact, qui se jetait presque dans la Meuse. Et, au loin, le palais des congrès et la tour cybernétique. Le paysage était paisible, impeccable, harmonieux. Il était sobre, mais réfléchi. Et je ne pouvais que constater que finalement, à Liège, on finissait par avoir de belles choses. Bon, ce n'était pas Bordeaux, mais c'était déjà quelque chose après tout. Puis elles sont arrivées, froides, tranchantes, métalliques, les barrières Nadar. Elles s'élevaient le long du quai, un peu branlantes, vaguement attachées entre elles par des bandes de sécurité ou des colsons. Elles arrivaient à paraître à la fois maladroites et menaçantes, un peu comme ces personnes dont on ne sait jamais trop de quoi elles sont capables. Car c'est exactement le problème avec les barrières Nadar. Oui, elles sont moches, certes, mais plus que ça, on ne sait jamais trop ce qu'elles font là, ni pour combien de temps elles y sont, et encore moins ce qui risque de leur succéder. La barrière Nadar, c'est un peu le mauvais augure de notre époque, la chouette ou la chauve-souris que nos ancêtres clouaient à la porte des granges. Même leur nom témoigne de toute la misère qu'elles apportent. Ce pauvre Félix Tournachon n'a certainement pas mérité d'être associé à ce fléau. Mais si, c'est lui, ce grand photographe surnommé Nadar, qui donnera son nom à ces barrières de l'enfer bien malgré lui. Une sombre histoire de voyage en ballon et de foule maintenue à distance, paraît-il. Vous voyez bien que depuis leur création, elles ne font que nuire, ces barrières. Elles serviraient à protéger, mais elles sont branlantes sur les pavés liégeois. Elles serviraient à attendre une meilleure solution. Mais celles qui les remplacent sont pires encore. Vertes, lourdes, pesantes, frappées des armes de la ville comme un soldat un peu abruti qui ne sait pourquoi on l'a campé là. À mort la barrière Nadar, je dis. À mort la politique du moindre effort architectural et l'obéissance aveugle aux normes de sécurité. Aujourd'hui, je me balade encore le long des nouveaux aménagements des quais de Rome et je regrette le paysage dégagé et serein de leur début. Je regrette alors de ne pas les avoir jetés à l'eau quand je le pouvais encore, ces barrières Nadar, puis les barrières de la ville, sur le point d'être assemblées. C'est maintenant autour du boulevard de voir s'élever ces sombres présages en aluminium. Elles s'étalent le long de la chaussée verdurée, ces claudiquantes et froides palissades. Et moi, je continue de maugréer contre ces temporaires qui n'en sont pas et les suivantes qui font pire.
C'est très beau, c'est très engagé, c'est vraiment un grand moment d'émission radio. Merci, merci Pavel. On continue, on enchaîne avec la chronique de Justine qui va nous parler de Jean Redville.
L'erreur est trop belle.
Le retour de Justine ce mois-ci pour nous parler de genre et d'espace public. Justine, le thème de ta chronique ce mois-ci, ça parle de...
C'est toujours le genre et la ville. Mais le mois passé, je vous ai parlé de manière générale de cet aspect, du fait que dans l'espace public, différentes formes de domination, hiérarchisation et discrimination se côtoient et font l'objet de multiples travaux de recherche. Avec le traité européen d'Amsterdam de 1999, les États membres ont l'obligation d'adopter une politique d'approche intégrée de l'égalité entre femmes et hommes. Depuis, de nombreuses communes annoncent prendre en compte le genre dans leur politique publique et des projets pilotes en gender mainstreaming apparaissent en Europe. Plusieurs villes ont été citées, Vienne comme pionnière dans l'intégration genre et chez nous, Bruxelles et Namur qui lancent différentes initiatives. La pratique de la ville est donc différente selon les genres qui n'ont pas la même légitimité. Aujourd'hui, j'aimerais parler plus en détail de comment les femmes ne sont pas égalitaires aux hommes dans la ville. Pourquoi elles ne se sentent souvent ni les bienvenues, ni en sécurité dans l'espace public et sont reléguées à leur domicile. Tout d'abord, il y a des comportements qui sont intégrés par les filles dès leur plus jeune âge. Quand elles se promènent dans la ville, comme se tenir d'une manière convenable, s'asseoir les jambes bien fermées, être calme, ne pas traîner dehors car c'est dangereux, rester sagement à la maison, etc., etc. Reconnu ou non, on appelle ça des injonctions. Toutes ces contraintes sont intégrées et influent sur le rapport des femmes à l'espace public. Le sentiment d'insécurité est le facteur numéro un de non-mixité dans l'espace public, selon Chris Blash, cofondatrice de l'association Genre et Ville. Un sentiment renforcé par le harcèlement de rue dont sont massivement victimes les femmes. Suite aux peurs urbaines, les femmes rationalisent leurs déplacements dans la ville en fonction des obligations qui s'imposent à elles. Dans un article d'Yves Rimbaud, une étude réalisée à Bordeaux reprend différentes stratégies menées par les femmes lorsqu'il s'agit de sortir la nuit. Utilisation de la voiture comme moyen de protection, déplacement en groupe, trajet anticipé et choix d'itinéraire spécifique, contournement de groupes d'hommes, heures de couvre-feu ou encore vêtements adaptés. Dans un sondage relevé par Huffington Post en 2016, 27% des Français pensent que les victimes de viol sont plus responsables de leur sort que leur agresseur si elles portent une tenue sexy. Les femmes contrôlent donc leur tenue corporelle dans l'espace public en prenant des précautions vestimentaires comme éviter le port de la mini-jupe ou les talons hauts. Toutefois, lorsqu'un homme se promène en short, débardeur et tongs ou fait de la musculation torse nu, cela paraît anodin. On voit donc bien qu'il n'y a pas le même statut du corps de la femme et du corps de l'homme dans la ville. Ensuite, on peut poser le postulat que la ville est faite par et pour des hommes. Historiquement, la ville a toujours été imaginée culturellement pour mettre en valeur les hommes. La plupart des noms de rues, places et monuments reprennent des noms d'hommes. Les statues, elles, représentent souvent des femmes dévêtues, en position de soumission et des hommes pleins de pouvoir en habits austères. De nos jours, il en est de même dans les publicités qu'on retrouve en rue. Au niveau de la gouvernance politique et des professionnels de la ville, il y a plus de femmes qu'auparavant. Mais leurs voix sont souvent minorées ou disqualifiées. Une parité homme-femme dans une assemblée ne garantit pas une diversité sociale dans la représentation ou l'égalité sexuelle. Elle ne signifie donc pas pour autant que la voix des femmes et que la question du genre sont prises en compte. L'organisation de la ville reste bien, pour la plus grande part, une affaire d'hommes. Les aménagements de la ville sont encore trop souvent pensés pour favoriser les modes de vie masculins relevant du domaine public. Les modes de vie féminins sont, eux, occultés, car présentés comme particuliers et relevant du domaine privé. Si les femmes ne s'attardent pas en ville, c'est aussi parce qu'elles n'ont pas été pensées pour elles, notamment pour tout ce qui concerne les équipements de loisirs et les espaces sportifs fréquentés aux deux tiers par des hommes, comme l'ont montré les travaux des sociologues Edith Marie-Joule et Yves Rimbaud. Dans plusieurs villes françaises, trois quarts des budgets publics destinés aux loisirs des jeunes profitent plus aux garçons qu'aux filles, comme les skateparks ou les city-stades. Or, on ne retrouve jamais un espace de danse dans l'espace public. Si l'on pense aux stades de foot qu'on retrouve dans toute ville moyenne ou grande, qui sont occupés deux fois semaine par un public quasi exclusivement masculin, qu'en est-il des loisirs féminins? Pouvons-nous imaginer le même type d'équipement et le même budget dédié aux femmes? Si l'on adopte les lunettes genre au niveau de l'utilisation de l'argent public, la ville apparaît à nouveau inégalitaire. Comme le dit Yves Rebaud, la ville est marquée matériellement par des espaces et des équipements qui séparent le monde des femmes et le monde des hommes, l'espace privé et l'espace public. Néanmoins, des changements s'opèrent. En exemple, je citerai le collectif comme Les Urbaines, qui met en place de nouvelles actions pour que la parole soit donnée aux femmes et aux filles. Les spécialistes et les habitantes travaillent ensemble afin de réaliser un diagnostic de leur ville et penser celle de demain. La participation collective est importante afin d'élaborer de nouveaux espaces publics profitant à toutes et tous. En effet, quand la ville est pensée pour les femmes, elle prend également en compte des minorités comme les personnes âgées ou handicapées et même la communauté LGBTQI+. Autre exemple, à Bordeaux ou Namur, le nom de grandes femmes sont donnés aux nouvelles rues. La ville de Vienne, elle, a intégré des budgets genrés dans ses politiques publiques. De plus, depuis 2014, la maire de Paris est une femme, la première, et s'affirme féministe. Je tiens à rappeler qu'il ne s'agit pas d'un défaut. Elle met en place une série d'actions importantes. Il y a encore beaucoup de travail, mais les choses bougent et se mettent en place. Je vous en parlerai plus en détail dans une chronique prochaine. Pour terminer, j'aimerais rappeler que les femmes ne sont pas minoritaires, mais constituent la moitié de la population mondiale. Nous avons vu que les causes d'une utilisation inégalitaire de l'espace public sont multiples. Les chercheurs et experts s'accordent donc sur le fait qu'il faut agir de manière transversale, à tous les niveaux et dès le plus jeune âge, où les représentations spatialisées genrées se créent. En allemand, il faudra déconstruire les stéréotypes et agir sur la structure sociétale.
Et merci Justine. Le vieux slogan du MLF qui me revient à l'esprit, c'est qu'un homme sur deux est une femme.
Merci Baptiste.
Et on enchaîne avec une petite pause musicale, on écoute La Rumeur, L'Ombre sur la Mesure.
Je suis l'ombre sur la mesure, le violent poison à l'écart de tout soupçon. Dans ce sombre récit dont personne se méfiera, il s'agira de sang sur les murs, au crépuscule d'une bavure. Je murmurai la haine, enclavée dans les huppes en région parisienne. L'amour comme rempart à la dérive, au registre de ces âmes charitables plutôt naïves se perd. Donne à ma palabre son caractère, sourire kabyle dans les artères de ma ville. Voilà à quoi l'instinct de malfaiteur, ma foi, se familiarisera. Aux effusions sanguines d'une trop commune routine, la rue se massacre sous le ciel des damnés. N'importe quel trou du cul aujourd'hui est armé. Hier encore, l'ombre d'un regard de travers sur le pavé se dissipait dans un silence de mort. Le crime désormais à la parole trop facile, crois-moi, pour qu'on en rigole de joie sous ces lampadaires qui éclairent la misère. Et si j'exagère, l'obscurité la plus dense n'est jamais loin de la lumière la plus vive. Nourrit ces rumeurs de peur et de paranoïa à des heures tardives sous le tranchant de la lame d'un cran d'arrêt. À vos risques et périls, derrière les guirlandes d'acier d'une maison d'arrêt ou sur un disque vinyle. Considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche.
Et chier graine les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche.
Et chier graine les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche.
Et chier graine les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une pompe
dont tu as allumé la mèche.
Et chier graine les secondes
d'une saison.
Je suis l'ombre sur la mesure à la pointe d'une écriture. L'ombre de ces murs aux mille blessures que des bouches murmurent entre deux rondes furibondes du bleu criard ou blafard d'un gyrophare. Je tisse ma toile noire sur des cœurs hagards et je traîne mes guêtres sous les fenêtres de ces ruelles qui ont la lèpre. Au carrefour de la cour, des miracles en débâcle, sous des arcades malades ou crises, des voies croisées de la faim et du vice. Je suis l'ombre cerclée de grilles, rouillée, verrouillée sur une aire où rien ne brille, où les corps se compriment, où la vue décline et où les brigadiers fulminent. Regarde ces silhouettes grises dont les rêves gisent sur le pavé couvert de pisse. Elles poussent toutes la même porte en crachant sur le trottoir de leurs illusions mortes. Nous n'avons à perdre que nos pensées ternes, te diront-elles avec le feu dans les yeux de ceux qui sont prêts à tenter le diable pourvu qu'ils garnissent leurs tables et conjurent la misère, le fer et la pierre qui les enserrent. Je suis l'ombre sur la mesure, et je sature dans les graves de cette basse qui monte d'une cave parmi la crasse et l'éther d'une trop vieille poudrière.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
Considère-moi comme une bombe
dont tu as allumé la mèche
et qui égrène les secondes
d'une saison blanche et sèche.
L'erreur est trouvée. Le tour de la question.
On est de retour sur les ondes de 48FM. Vous écoutez toujours L'Erreur est urbaine, l'émission mensuelle d'Urbagora qui parle de la ville. Pour le tour de la question, ce mois-ci, j'ai invité Christophe Breuer, qui est géographe ici à l'Université de Liège, qui va nous débriefer un colloque qui a eu lieu les 24 et 25 novembre dernier et qui s'appelait La Fabrique des Métropoles. Colloque qui avait pour but de documenter et de mettre en débat les enjeux de supracommunalité, qui sont des enjeux techniques, en tout cas dans le premier abord. Mais l'enjeu de ce colloque, c'était véritablement de réunir des académiques, de réunir également des politiques pour parler de ces enjeux-là en essayant de montrer à la fois l'importance de ces enjeux et à la fois leur urgence aujourd'hui à Liège. C'est ça ?
Oui, en fait, c'était l'idée. L'idée que la question de la gouvernance urbaine, la question des institutions supracommunales sont vraiment des questions hyper importantes pour l'ensemble des villes européennes, l'ensemble des villes moyennes, l'ensemble des métropoles. Et donc, c'est vraiment la base de la réflexion qui est très ancienne à Liège, vu qu'on en parle depuis les années 60 maintenant, de la question supracommunale, dans d'autres contextes, bien sûr. Mais c'était vraiment l'idée de faire une réflexion à ce sujet-là, avec des acteurs qui sont diversifiés, parce qu'on a beaucoup une approche sectorielle de ces questions-là. Et ici, c'était une vraie volonté de travailler à la fois avec des associations, de travailler avec des chercheurs dans le domaine, qu'ils soient politistes, qu'ils soient géographes, qu'ils soient juristes. Vraiment, l'idée, c'est de rassembler ces expertises-là pour contribuer au débat qui, à Liège, est toujours super intense au niveau de la supracommunalité.
Oui, on comprend pourquoi, et ça vaut peut-être le coup de repositionner un peu le débat dans le sens, c'est quoi la supracommunalité et pourquoi c'est si important que ça à Liège aujourd'hui ?
Alors, c'est un vaste débat sur la question de la coordination. Donc on sait que les villes des années 2010 ne sont plus du tout les mêmes que celles qu'on a connues dans les années 40, 50, 60. Les villes ont complètement explosé, notamment avec l'automobile. Chacun a maintenant sa bagnole et peut se déplacer relativement loin pour aller s'installer. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une coordination à l'échelle de l'ensemble de la région urbaine. Et la région urbaine, c'est quoi ? C'est l'espace urbain, mais aussi l'ensemble des villages et des communes qui sont plus urbanisées, qui appartiennent à l'aire d'influence de Liège. Ce sont les gens qui habitent relativement loin, mais qui viennent travailler à Liège, qui viennent à l'école à Liège, qui viennent à l'hôpital à Liège, qui viennent à l'opéra à Liège, qui viennent au théâtre à Liège. Ce sont des personnes qui vivent, en fait, qui sont liégeois, qui l'ignorent parfois un petit peu, mais qui sont liégeois et qui vivent le même quotidien que les liégeois qui sont urbains. Et donc la question de la supracommunalité, c'est pouvoir se dire, voilà, on a un nouvel espace de vie, c'est l'espace de la région urbaine. Comment on peut adapter les institutions à ce nouvel espace de vie pour que ça colle au mieux possible, pour régler un ensemble de questions très pratiques. La question de la mobilité, bon, voilà, si certains d'entre vous ont une voiture, par exemple, ben, voilà, la question de la mobilité, elle se pose chaque matin. Elle se pose aussi pour les personnes qui ont un vélo, qui doivent se déplacer sur des réseaux verts ou des réseaux de mobilité douce qui sont fragmentés. C'est aussi une question très pratique pour l'installation de commerce. On sait bien que la périphérie, les centres périphériques en termes de commerce concurrencent très fortement le centre-ville. Donc voilà, ce sont toutes des questions pratiques du quotidien des gens, du quotidien des entrepreneurs, des commerçants. Voilà, c'est ces questions-là qu'on essaye de régler, ou en tout cas on essaye d'y contribuer, parce qu'on sait bien que c'est extrêmement difficile de mettre ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble sur des questions supracommunales.
Alors, c'est une thématique, tu disais, qui date des années 60. Donc, on a déjà 50 ans de discussion, de documentation derrière nous. Aujourd'hui, il existe des structures supracommunales, j'ai envie de dire, mais qui sont imparfaites. Donc j'entends par là les intercommunales, qui ont été des délégations ou des regroupements de plusieurs communes sur une compétence spécifique. On peut parler de la conférence des bourgmestres, on peut parler de Liège Europe Métropole, etc. Un ensemble d'initiatives plus ou moins publiques, plus ou moins... mais il n'y a rien qui relie ces... Dans le droit, aujourd'hui, il n'y a rien qui donne une vraie crédibilité à ces instances-là. Elles ne sont pas suffisantes aujourd'hui, ces instances-là.
Alors, ça me fait penser à deux réflexions. La première, c'est que s'il y a une telle multiplication des structures, c'est qu'il y a bien un besoin de coordination. Ça, c'est le premier constat. C'est que malgré le discours de certains, disant, voilà, on se débrouille bien comme ça, on voit bien que la multiplicité des expériences démontre par elle seule la nécessité de se coordonner. Donc voilà, ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, c'est effectivement qu'en Wallonie, plus singulièrement, on n'a pas réussi à mettre en place un système qui était vraiment robuste sur le plan légal, sur le plan juridique, sur le plan institutionnel, qui s'adapte parfaitement à la réalité urbaine telle qu'on la vit. Pour de multiples raisons, la fusion des communes dans les années 70 est une de ces raisons. Les conflits politiques sont aussi une raison. La construction de la région Wallonne en tant qu'institution par rapport à des communes qui sont finalement très, très proches l'une de l'autre est aussi un élément qui peut expliquer finalement la réticence locale, régionale à constituer un vrai cadre légal. Plus évidemment tous les petits sujets qui sont extrêmement conflictuels comme la fiscalité. La fiscalité, c'est vraiment un sujet hyper conflictuel. On a encore constaté durant le colloque la difficulté de mettre en place des structures qui ont une capacité fiscale. C'est vraiment un enjeu super important.
Pour contextualiser sur les enjeux de fiscalité, c'est aujourd'hui le principal ressource des communes vient de la fiscalité. On comprend effectivement les réticences de certaines communes riches de la périphérie liégeoise d'avoir du mal à imaginer... créer une fiscalité commune sur ces ressources-là, effectivement, avec d'autres communes plus pauvres ou avec moins de moyens.
Oui, puis la tentation est toujours forte pour une commune périphérique qui n'a pas les gros problèmes de ce qu'on appelle les charges de centralité. Donc les charges de centralité, c'est quoi ? C'est par exemple, vous avez un match au stade à Sclessin, il faut payer la police. Voilà, très concrètement, c'est une charge de centralité, c'est une charge que les autres communes périphériques n'auront pas. Vous avez un opéra, vous devez déployer autour.
Alors là, je t'arrête parce que moi, je suis comblenois et j'ai bon espoir de voir un jour Sprimont Comblain en première division et on aura aussi les mêmes problèmes.
À mon avis, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul, mais pour le moment, en tout cas, il faut continuer à payer. Donc voilà. Donc on sait bien que les communes centrales, elles ont plus de charges que les autres pour des questions de sécurité, pour des questions de développement économique. Les grandes infrastructures, elles se trouvent à Liège. Donc on voit bien le théâtre, l'opéra. Les musées se trouvent principalement sur la commune de Liège. Et donc, la commune de Liège a plus de dépenses à faire, alors qu'une commune qui est en périphérie, voilà, on peut prendre des communes comme Sprimont, comme Neupré, Nandrin, elles ont bénéficié ces dernières années de plus d'habitants. Donc, elles ont un retour d'impôt qui est plus important, avec des personnes souvent qui ont une capacité plus importante en termes de revenus financiers, alors qu'elles n'ont pas encore ces charges-là. Et donc, c'est vrai que c'est conflictuel, parce que quand on est une commune de périphérie, on ne se sent pas forcément impliqué dans cette dynamique-là. Et c'est tout à fait légitime. On se dit, ben voilà, pour le moment, je me débrouille dans la situation actuelle. Je ne vois pas pourquoi aller m'endetter ou alors collaborer alors qu'on me force un petit peu la main pour ce faire.
Et pour autant, on est dans un contexte qui est assez favorable en fait, au développement des supracommunalités aujourd'hui. J'ai envie de t'interroger sur deux éléments principaux. Le premier, c'est la lutte contre l'étalement urbain qui est affichée dans quasiment tous les documents officiels, quel que soit le parti aujourd'hui. Alors après, avec plus ou moins d'effets d'annonce et plus ou moins d'actes derrière. Mais en tout cas, la lutte contre l'étalement urbain semble assez consensuelle aujourd'hui, y compris, je lisais le traitement, on parlait de Sprimont, je lisais sur la RTBF récemment un compte-rendu un peu des enjeux des élections communales à Sprimont, où on parle même de lutte contre l'étalement urbain dans ce cadre-là. Et l'autre contexte favorable, c'est la sixième réforme de l'État qui dispose de la possibilité pour les régions de réduire les provinces à leur portion congrue et de les remplacer par des structures supracommunales, justement. Est-ce que cette fenêtre d'opportunité, quelque part, fait avancer le débat à Liège ?
Oui, c'est la raison notamment pour laquelle on a fait ce colloque maintenant. On voit bien qu'on est dans un momentum, dans une fenêtre d'opportunité en termes de changement. Effectivement, la lutte contre l'étalement urbain, c'est intégré dans tous les documents stratégiques, donc ça on le voit bien, mais ça manque de concrétisation. Dans le concret, comment fait-on pour lutter contre l'étalement urbain? C'est une matière qui est extrêmement difficile, à nouveau parce que la tentation d'avoir plus d'habitants est toujours grande pour les communes périphériques. Donc là, on se rend bien compte qu'on manque d'outils, notamment institutionnels, pour le faire. Donc ça, c'est vrai qu'une institution urbaine supracommunale pourrait contribuer à cette question-là. Et par ailleurs, effectivement, les réformes institutionnelles permettent maintenant aux régions de restructurer leurs institutions, notamment l'institution provinciale, pour avoir des institutions qui sont plus proches de la question urbaine. Donc ça, c'est vrai qu'on est dans un double mouvement, un mouvement territorial où on voit bien qu'il y a une nécessité de coordination supracommunale et un mouvement institutionnel qui est plutôt favorable à l'émergence de ce genre de solutions. Alors, dans les faits, on sait bien que c'est difficile parce que bon, une institution vénérable comme celle de la province de Liège, par exemple, bon, elle a des services, elle génère un certain nombre d'emplois, elle soutient par exemple le sport, l'enseignement, la culture, voilà, ce sont tous des services qu'il va falloir restructurer dans l'éventualité où on supprimerait par exemple les provinces pour recréer des institutions qui sont plus urbaines. Un des autres scénarios, et c'est celui qui a été exprimé notamment durant le colloque, c'est la reprovincialisation d'un certain nombre de compétences. C'est possible aussi. Donc on peut imaginer de restructurer le niveau intermédiaire entre la région et les communes. Donc il y a plein de solutions et en réalité il n'y en a pas vraiment de solution. La solution parfaite n'existe pas. On pose souvent la question de la solution parfaite. Elle n'existe pas vraiment en fait.
Après deux jours de colloque qui regroupaient, donc on l'a dit, des académiques et des politiques, j'ai quelques questions à poser sur les conclusions. D'abord du point de vue académique, est-ce qu'on a réussi à dégager pendant ce colloque un certain relatif consensus sur les matières qui devraient être supracommunalisées, sur la forme institutionnelle que pourrait prendre cette institution, etc. Est-ce qu'on a des éléments de consensus qui fait que les différents chercheurs qu'on puisse exprimer, qu'ils soient juristes, qu'ils soient géographes, qu'ils soient économistes, etc., ont su trouver un socle minimal, vital? Est-ce qu'on a réussi à arriver à ça?
Sur le plan scientifique, il y a un consensus minimal, mais qui se dégage quand même sur la question des compétences. C'est notamment la question de la mobilité, qui est vraiment un leitmotiv pour les chercheurs. La mobilité, on se rend bien compte que tant qu'on n'aura pas des leviers institutionnels à l'échelle de Liège, on n'y arrivera pas. On n'arrivera pas à avoir des solutions qui sont durables. Sur le développement économique aussi, sur la question des infrastructures supracommunales, donc par exemple les piscines, sur un certain nombre d'établissements d'enseignement, etc. Donc ça, ce sont des matières sur lesquelles on imagine bien avoir un consensus sur une nécessaire harmonisation, coordination à l'échelle supracommunale. Donc ça, c'est sûr que sur un certain nombre de compétences, compétences développement économique par exemple, les super cardinales pour une ville comme Liège, on voit bien que bon, là on a une grande fragmentation des acteurs, on a le GRÉ, on a l'ASPI, puis on a les communes qui interviennent, on a la région qui intervient aussi, donc là on voit bien qu'on a une grande fragmentation et qu'elle n'est pas positive pour pas entièrement positive pour un certain nombre d'acteurs et notamment pour les entreprises qui cherchent des interlocuteurs robustes. Donc voilà, c'est pas une question seulement de gens qui veulent emmerder leur monde, c'est une question de coordination aussi pour le développement économique. Par contre, sur la solution institutionnelle, alors là, il n'y a jamais de consensus, nulle part dans le monde, même en France. Alors en France, on sait qu'ils ont une grande histoire de la supracommunalité. On sait bien que là non plus, il n'y a pas de consensus. Donc ça dépend vraiment à chaque fois du contexte local. Et on sait bien que Liège ne ressemblera jamais à Toulouse ou à Bordeaux dans ces matières-là, en termes de gouvernance. On est tellement différents qu'il va falloir inventer un peu son propre modèle. Et ça aussi, s'il y a un consensus sur ce plan-là avec les scientifiques, c'est qu'effectivement, chaque ville a son modèle de gouvernance, son modèle institutionnel, qui permet de répondre à ces enjeux qui lui sont propres et qui ne sont pas forcément les mêmes que si on devait comparer Charleroi, Lille ou une autre ville. Voilà.
Oui, d'autant plus que, sans revenir sur l'histoire de la supracommunalité en France, ça a été un mouvement quand même très largement top-down où le rôle des préfectures et donc de l'État derrière, aujourd'hui encore, l'État peut forcer une commune à rejoindre malgré elle une intercommunalité si besoin est. J'ai envie de poser la même question que j'avais posée avec le monde académique sur l'enjeu du consensus sur le monde politique. Le colloque s'est terminé par une table ronde qui regroupait les représentants de tous les partis démocratiques représentés au sein de la ville de Liège notamment. On a pu constater un consensus, ou pas? Je connais la réponse.
Alors, pas de consensus. Donc ça, c'est souvent le cas. Et en tout cas, dans cette matière qui est très délicate, très conflictuelle, pas de consensus. Donc, si ce n'est celui d'avoir une évolution qui soit plus favorable à l'agglomération liégeoise. Donc voilà, il y a un consensus, c'est celui qu'on doit avoir des leviers pour pouvoir se développer, pour pouvoir se coordonner, donc ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, sur la manière dont on va y arriver, il n'y a pas de consensus. Certains prônent une coordination relativement souple, vraiment quelque chose de relativement informel, donc ça, on l'a vu durant les échanges. D'autres, vraiment, imaginent des institutions spécifiquement urbaines, qui ont vraiment un caractère urbain, qui est assez limité en termes d'espace pour pouvoir vraiment se concentrer sur les enjeux urbains. Et puis alors, il y en a d'autres qui disent, bon, voilà, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a déjà des provinces qui existent, elles ont beaucoup de compétences, et on pourrait tout à fait imaginer reprovincialiser un certain nombre de compétences. Donc voilà, là, en termes de consensus sur la forme, il n'y en a pas. Pour le moment, il n'y en a pas.
Mais il y a quand même une volonté un peu unanime d'avancer sur ces questions-là, donc on a bon espoir. Est-ce qu'il y aura des suites à ce colloque ?
Alors oui, on a imaginé, dans un premier temps en tout cas, réaliser des actes du colloque qui vont paraître assez rapidement et qui vont pouvoir être distribués, vendus dans les prochains mois. Donc là, vraiment l'idée, c'est d'avoir l'essentiel du colloque, les éléments les plus importants du colloque qui soient repris dans ces actes. Et puis alors, c'est un débat qui est toujours en cours. Donc on espère que le débat que nous avons eu avec les partenaires qui étaient là, avec l'ensemble des participants, on a eu la chance d'avoir une belle diversité au niveau des participants, puisse aussi se poursuivre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans cette réflexion en cours. Et on voit bien que pour les prochaines élections communales notamment, ça va être un enjeu vraiment déterminant pour les élections et pour le positionnement de chaque parti dans ces élections-là. Donc on espère vraiment qu'il va y avoir des suites sur ce colloque.
On référencera de toute façon sur le site d'Urbagora et sur la page web de l'émission, ainsi que sur les réseaux sociaux, comment se procurer, comment réserver déjà les actes, ce bouquin qui est en préparation. Merci Christophe Breuer, merci d'être venu. On fait une pause musicale, on va écouter Olifant de DAAU.
L'erreur est trouvée.
Et on enchaîne avec la chronique cyclable qui est de retour. Salut Mathieu.
Bonjour Baptiste.
Et aujourd'hui tu parles de vélo au Mexique, c'est ça ?
Je ne parle absolument pas de vélo au Mexique.
Ah bah tu vois, quand on me dira tout en temps et en heure, de quoi parles-tu alors ?
Aujourd'hui je vais faire une petite chronique que je n'ai pas écrite parce que je suis feignant et que je vais honteusement pomper dans ce petit livre qui s'appelle Le goût du vélo aux éditions Mercure de France. Et c'est un texte de Odon Vallet. Je ne sais pas, qui écrit ça, et je trouvais que c'était très à propos avec l'émission précédente et le petit texte. Et d'ailleurs, j'étais en train de me dire, pendant que je le lisais, que ça allait pouvoir donner quelque chose de chouette par la suite, parce que ça nous donne une petite, un aperçu du vélo, de manière générale, mais aussi de l'histoire du vélo, qu'on oublie un petit peu trop souvent.
Eh ben vas-y, on t'écoute.
Derrière l'histoire des mots bicyclette et vélo, il y a l'histoire tout court. Amoureux de la langue et des mots, Odon Vallet la décrypte dans le numéro 5 des cahiers de médiologie consacrés à la bicyclette. Il nous montre ainsi que, dès l'origine, ces mots avaient une connotation sociale qui évolue sans cesse. Qu'est-ce qu'un cycle ? Quelque chose qui tourne en rond ou qui avance ? Les deux. Comme la roue, le cycle tourne autour d'un axe et progresse dans une direction. Le cycle est né dans la nature où cette ronde dynamique se retrouve dans les mouvements des astres. Leur cycle est l'éternel retour du temps qui passe et des périodes qui se succèdent. C'est la révolution permanente des planètes fidèles au rendez-vous, loin des étoiles filantes et autres stars capricieuses. La roue de la bicyclette, mot apparu vers 1880, possède des origines aristocratiques et prolétariennes qui rappellent le char et la charrette. Le mot bicyclette est une francisation de l'anglais bicycle, désignant un engin alors réservé aux hommes fortunés, le grand bi, avec son immense roue arrière grande comme celle d'un carrosse, faisant du cycliste d'un homme aussi haut placé que le cavalier en dominant la piétaille. Mais la démocratisation de la bicyclette engendra des diminutifs familiers comme celui de bécane, vers 1890, terme désignant auparavant une vieille machine. La bicyclette est rapidement entrée en concurrence avec le vélocipède, un mot désignant auparavant une voiture rapide, vélos, tirée par des chevaux, quadrupède, puis un coureur à pied, enfin un engin à deux ou trois roues. Le tricycle précède le bicycle, mu par l'appui des pieds sur le sol avant que l'invention des pédales et de la chaîne ne fît quitter le sol aux pieds. De vélocipède dérive notamment vélodrome en 1879 et vélomoteur en 1893. Le but premier du vélocipède est donc la vélocité. Les deux mots viennent du latin velox, vif, agile, lui-même issu du verbe végérer, donner la force ou du mouvement, qui a donné le verbe français végéter, c'est-à-dire vivifier comme un végétal, mener une vie végétative.
Qui est un peu l'inverse du mouvement, hein, entre nous.
Voici donc le vélocipède en concurrence avec la bicyclette. Abrégé en vélo, il rime avec macho ou prolo. Rapidement, le vélo deviendra l'auto du pauvre, outil des classes laborieuses et des champions populaires. Le vélo, c'est pour l'usine ou la course, tandis que la bicyclette, qui rime avec trottinette, midinette et suffragette, apparaît comme la monture des demoiselles et des classes raffinées. Ce clivage, qui date du début du XXe siècle, est remis en cause par l'apparition du vélo tout-terrain, ce VTT, qui a les mêmes initiales que le véhicule de transport de troupes et séduit hommes et femmes de toutes les catégories sociales. De même, l'usage des deux roues en milieu urbain transcende la lutte des classes et la rivalité des sexes. Il est à la fois populo, intello et écolo. Enfin, le VTC, vélo tout chemin, synthèse du VTT et du vélo urbain, réconcilie l'asphalte et le sentier. Moins char d'assaut que le VTT, il retrouve une certaine douceur de forme rappelant la bicyclette d'autrefois. Bientôt, de nouveaux mots symboliseront l'évolution de l'objet. Le monde du vélo a toujours été inventif, haut en couleurs, riche en argot. Fatigué, le coureur a un coup de pompe, déhanché, il monte en danseuse, épuisé, il roule sur la jante. Entre faire du bec de sel et mettre le nez dans le guidon, il a tout le vocabulaire de l'effort né dans ces clubs de banlieue qui ont pour nom guidon d'or versaillais, petite reine blanc-méniloise ou pédale charentonnaise. C'était le temps où, dans les vieux Veldives, des hommes tournaient en rond pendant 6 jours, comme des ouvriers abattant sa semaine ou Dieu façonnant le monde. Et le septième jour était celui du repos pour clore la période d'effort ou le cycle de la création.
Et le biclou alors? C'était très beau, c'était très beau. Je note que tu as honteusement sous-traité ta chronique.
Mais c'est chouette, hein. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce texte. C'est pour ça que je le lis d'ailleurs.
C'est un très beau texte, merci.
L'erreur est trop belle.
On continue avec le dossier du jour qui... ce mois-ci est consacré à la question des prisons, de la prison et de la ville, du prison et du territoire. Pourquoi ? Parce que c'est le thème du dossier central du numéro 5 de Dérivation qui sort ces jours-ci. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Kitry Lechner qui viendra une nouvelle fois avec moi pour animer cette discussion. Bonjour Kitry.
Bonjour.
Et aujourd'hui, on reçoit deux invités. D'abord, Lucas Pidiou qui a coordonné l'écriture de ce dossier. Donc Lucas, tu es journaliste indépendant et... Les auditeurs de 48 FM te connaissent puisque tu animes ici l'émission Voix solidaire. On reviendra plus longuement sur le dossier. Pourquoi les prisons ?
Ben, alors d'abord, pour ma petite présentation, j'espère que les auditeurs de 48 FM me connaissent, mais ce n'est pas forcément dit. Il faut voir s'ils écoutent l'émission quand même. Alors... Pourquoi les prisons ? Simplement, moi, je suis contributeur dans différents magazines, revues, et je contribue régulièrement à l'écriture de Dérivation. Et on m'avait proposé de rédiger un article dans le contexte d'un dossier sur la prison, et j'étais intéressé de faire un article sur... quelle était la vie du quartier de Saint-Léonard au moment où la prison était présente, donc avant 80-81. Et une chose en entraînant une autre, j'ai proposé de coordonner un dossier qui a pris de plus en plus d'ampleur sur la prison et la ville et sur ces questions, comment on envisage l'espace à la fois dans la prison mais aussi par rapport à l'aménagement de la ville et du territoire.
Tout un programme. Et notre deuxième invité, c'est David Tillman. Bonjour.
Bonjour.
Architecte, chargé de cours à l'ULG et titulaire d'un DEA en criminologie plutôt que criminologue. Oui, pour pas me vexer les hiérarchies universitaires, c'est ça ?
C'est ça. Oui.
Et tu es un peu au sein de l'ULG, si j'ai bien compris, un des spécialistes de la question carcérale.
Oui, c'est-à-dire que la problématique des prisons m'intéresse depuis des années, depuis avant même de faire l'architecture. Donc j'ai développé pas mal de recherches là-dedans et j'ai été pendant 8 ans président de la commission de surveillance de la prison de Lantin. J'oubliais de le dire tout à l'heure, ce qui m'a donné l'opportunité de voir un petit peu ce monde-là de l'intérieur. Ouais.
Eh ben super, ça promet un dossier assez riche sur une problématique qui est peut-être pas si évidente que ça pour les gens qui étudient la ville, puisqu'on le verra, les prisons sont de moins en moins des phénomènes urbains et de plus en plus des phénomènes qu'on voudrait, que certaines personnes en tout cas rêveraient un peu hors contexte, hors tout contexte, etc. On y reviendra, mais d'abord on fait une petite pause musicale et on écoute Michel Gurevitch avec I'll Be Your Woman.
I'll be your woman with unwavering eyes. A flame of the spirits and the mysteries of life. The hands of a healer. And a samurai. I'll be your woman. You can be mine. I'll be the gypsy on a path through the trees. The deal maker with front row seats, who turns from the armchair
and the picket line. I'll be your woman. Not your princess, not your stallion, an ambiguous, complex creature. Not your teacher, not your shivering dog, hunkier than your neighbor. Not your mommy, not your daddy. For being daddy. Not your stallion. Don't you lay down. Get yourself a sailor. Be the mirror where you are queen. Your fellow magician of the waking dream. Hung with a hammer and a glass of wine. I'll be your woman, and you can be mine.
De retour sur les ondes de 48 FM. Je suis en compagnie de Kitri Lechner, David Tillman et Lucas Pidiou pour notre dossier qui est consacré aujourd'hui à la question carcérale. D'abord, peut-être un petit mot sur ce qui nous amène à faire cette émission. Donc, Lucas, tu coordonnes le dossier pour la revue Dérivation. Tu sais, en deux mots, hein, situer ce qu'est Dérivation.
Donc, Dérivation, c'est une revue qui est d'origine liégeoise. Qui est édité par SBL Urbagora et qui veut, de manière générale, aborder des questions qui ont trait à la ville et au territoire. Voilà, je ne suis pas non plus le porte-parole de la revue, donc voilà, je suis contributeur à la revue, moi, régulièrement, pas à chaque numéro, mais quand je peux apporter ma pierre à l'édifice, on va dire.
Et là, ce coup-ci, un dossier prison, tu te retrouves à coordonner le dossier principal pour avoir été à ta place. Je sais que ce n'est pas une mince affaire. Du coup, peut-être pourquoi la prison est un problème qui interroge la ville. Et on reviendra peut-être plus longuement sur ces problématiques-là après, mais dans le cadre de Dérivation, comment tu te retrouves à coordonner ce dossier et peut-être faire un petit tour du sommaire, expliquer ce que c'est ce dossier.
Moi, j'ai repris en fait un sommaire qui avait déjà un peu été préétabli. Donc après, on a vu comment le modifier, comment l'améliorer, comment est-ce que les textes pouvaient aussi être équilibrés entre des approches plus scientifiques, plus académiques, des approches aussi un peu plus de terrain, puis des prises de distance un peu plus philosophiques. Voilà, il y a un peu de tout, je pense, dans le dossier. Et on est parti de la question principale, de se dire qu'est-ce que la prison aujourd'hui par rapport à la ville, c'est-à-dire qu'est-ce que ça dit d'une société des prisons qui s'éloignent de plus en plus des villes, qu'on ne veut pas voir, qu'est-ce que ça dit de notre société, qu'est-ce que ça dit de l'enfermement, et de manière générale, quelle est la place des questions de territoire et d'espace là-dedans. Pour faire juste un petit tour de ce que contiendra le dossier comme article, on aura un texte introductif qui recontextualise la place des prisons belges et dans les cadres légaux, notamment face au dernier master plan de notre ami ici présent, David Tillman. C'est lui qui l'a rédigé. On aura aussi un texte qui a été fait selon un atelier que j'ai été faire avec d'autres personnes à Lantin. Donc on a été rencontrer des détenus en maison d'arrêt en leur demandant si leur avis devait être consulté demain dans le cadre d'une extension de Lantin, ce qui est en théorie prévu. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire et en étendant un peu l'imagination au-delà de ça, s'ils devaient redessiner la prison selon leurs envies, de leur cellule au déplacement spatial de la prison par rapport à la ville ou à la périphérie, qu'est-ce qu'ils voudraient qu'ils changent. Alors voilà, je vous invite à lire le texte. Il y a beaucoup de choses intéressantes, beaucoup sur la cellule, évidemment, plus que sur d'autres aspects, puisque évidemment 3 heures sur 24 en maison d'arrêt dans la cellule, forcément il y a beaucoup de réflexions qui naît sur ça. Moi j'ai réalisé un article aussi sur la prison de Saint-Léonard. Qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que ça apportait dans la vie d'un quartier, comment les habitants du quartier le percevaient. J'ai été retrouvé d'anciens habitants du quartier, etc. Comment sa destruction s'est passée, voilà. On aura aussi un autre article sur un projet qui s'appelle De Huizen, donc les maisons, qui est une alternative proposée par un groupe de chercheurs, mais aussi de personnes qui connaissent très bien la prison, puisque l'initiateur Hans Kloos est directeur de prison, et dont l'objectif est en fait de placer la prison sous une autre modalité, c'est-à-dire des petites maisons de quelques détenus au sein de quartiers, voilà, avec une certaine surveillance, mais aussi une interaction totale avec la société. Il y aura un article sur la prison de Haren, qui est une espèce de méga prison de 1200 places qui doit être construite dans la région bruxelloise et qui a rencontré beaucoup de contestations, à la fois dans un aspect de protection des espaces verts, mais aussi de lutte contre le système carcéral tel qu'il est. On a notamment aussi un article un peu plus, à la fois une approche mi-sociologique, mi-philosophique sur les spatialités chez Michel Foucault au regard des réalités des prisons belges. On a aussi un récit d'un ancien détenu, Éric Lamers, qui est une figure de grand banditisme belge et qui, après être sorti de prison, a écrit des bouquins. On a un article sur la surpopulation carcérale avec une plainte d'un collectif d'avocats.be contre l'État belge. Donc sur la surpopulation, et puis on a encore d'autres articles, dont un sur la géographie du bracelet électronique. Qu'est-ce que ça veut dire d'une de ces nouvelles peines du bracelet électronique à de nombreux égards, notamment au fait que finalement c'est un peu la société, je vais le dire de façon ramassée, mais on pourra en discuter, c'est un peu la société qui garante du coup la surveillance des prisonniers. Donc ça implique d'autres dynamiques aussi. Voilà, un petit panorama, j'oublie peut-être un ou deux articles. Il y aura aussi des cahiers photos, de très belles photos, des photos noir et blanc, des photos couleur.
Super, un dossier bien complet. Peut-être pour rentrons dans le vif du sujet, la question de la prison. Kitrine, première question.
Peut-être pour essayer de comprendre le contexte aujourd'hui des prisons et de voir l'avenir qui est possible ou pas de la place de la prison dans la ville, hors de la ville, dans sa périphérie. On va peut-être essayer d'abord de revenir un peu dans le temps et de voir comment s'est construite cette cette histoire de la prison, si on peut dire, et de voir l'évolution qu'il y a eu au sein des prisons, d'un lieu comme étant plus un espace d'attente avant de subir sa peine, si on peut dire, à un espace qui est considéré comme une peine en soi. Donc peut-être David Tillman, si on peut revenir un peu sur un historique bref, si on peut dire,
oui, un historique bref de la prison. Bon, évidemment, le problème, la question des prisons est vraiment particulière et elle peut être abordée de différentes manières. C'est-à-dire que l'origine même de l'outil de privation de liberté, donc une prison, c'est quoi ? C'est de l'architecture qui permet de priver quelqu'un de sa liberté, donc de donner une punition à quelqu'un. Ça, c'est une origine de la prison qui est une origine relative à la pénalité, on va dire. Et donc, du coup, forcément à la criminalité. La criminalité, c'est ce qui est puni. Donc, voilà, tout est là-dedans. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'à la fin du XVIIe siècle, on commence à s'apercevoir que les peines attribuées, les supplices, différents types de peines qui sont appliquées sont non seulement inhumains, mais relativement inefficaces, très spectaculaires. Et une première personne qui s'appelle César Beccaria va écrire un bouquin qui s'appelle « Des déliés des peines » et va expliquer en gros qu'on a autre chose à faire que de couper des mains ou d'arracher des yeux et qu'on va essayer de finalement mesurer la peine, donner une juste peine qui serait différente, qui serait plus mesurée. Et cette mesure, comment est-ce qu'on va la trouver ? Eh bien, en fait, tout simplement dans le temps. C'est-à-dire que priver quelqu'un pendant un certain temps de sa liberté va être compris comme quelque chose de d'abord plus humain, évidemment, et de plus objectif, puisqu'on peut mesurer. C'est-à-dire qu'une peine grave, ce sera une peine longue, tout simplement. Donc mathématiquement, les juristes aiment bien pouvoir avoir un espèce d'abac en disant autant d'années pour tel type de fait. Deuxième avantage de ça, évidemment, c'est que le sang ne coule plus, c'est-à-dire que la visibilité, je vais dire, du supplice est un peu soustraite à ce que la population pouvait voir. On a l'impression de quelque chose donc de plus humain, de plus efficace, de plus caché en tout cas. Donc tout ça, en fait, est pavé de bonnes intentions. En réalité, l'invention de la privation de liberté, elle vient assez tard, hein, finalement, à la Révolution française. Elle vient quand on invente le principe, justement, de liberté individuelle. C'est-à-dire que, à partir du moment où un citoyen peut être compris comme quelqu'un de libre, lui, le priver de sa liberté, à partir du moment où c'est le plus grand bien qu'il puisse avoir, évidemment, c'est lui donner la peine ultime, quelque part. Ça ne pouvait pas exister avant, puisque la liberté individuelle, quelque part, au Moyen-Âge, n'a pas du tout la même signification qu'après la Révolution française. Donc, étonnamment, on invente la privation de liberté en même temps que la liberté individuelle. Et à ce moment-là, donc, dans la foulée, je vais dire, un utilitariste bien connu, Jeremy Bentham, va dessiner la première prison théorique qu'il aura appelé le panoptique, qui est un dispositif tout à fait particulier, très théorique, qui n'existe nulle part. Hein, c'est une sorte d'utopie au départ, qui n'est pas située par rapport à la ville, et qui est un grand cylindre autour duquel, on y reviendra peut-être tout à l'heure, sont disposées des cellules qui sont toutes visibles depuis un centre unique. Donc avec très peu de surveillance, on parvient à maintenir pas mal de détenus. Alors ça, c'est l'explication en fait un peu classique de dire que la prison vient de la pénalité, qu'on condamne les gens et on trouve un nouveau type de peine et on invente cet instrument de torture qui est construit par les architectes, qui est la prison. Il faut savoir qu'il y a d'autres origines quelque part, et j'en vois deux principalement. C'est le traitement de la pauvreté, le traitement de la folie dans les villes. La pauvreté d'une part, ou les indigents, donc des gens qui, même en travaillant, ne peuvent pas subvenir à leurs besoins, etc. Dans l'optique de Jeremy Bentham, qui n'a pas fait que des prisons, hein, dans l'optique de Jeremy Bentham, on va utiliser ou on va mettre à profit finalement les pauvres, les indigents, les gens qui ne sont pas capables de subvenir à leurs besoins, en reprenant cette population-là à l'église et à la charité. Donc il se passe vraiment quelque chose de particulier. L'État prend la main sur le traitement de la pauvreté. La charité n'est plus donnée de manière spontanée par l'église et la communauté, mais est reprise en charge par l'État. Donc ça, c'était en ce qui concerne la pauvreté. En ce qui concerne la folie, on a à peu près le même type finalement d'évolution, où le fou, l'image du fou, du quelque part du décalé par rapport à la société, va également sortir de la ville, va être soustraite au regard des gens. Et c'est ce qu'on va appeler la période du grand renfermement, etc., qui va en réalité contribuer un petit peu au même type d'infrastructure. Et on va voir apparaître à la fin du XVIIe siècle, déjà en Belgique, en Hollande, des infrastructures comme la manufacture de gants, comme la Spinhuis ou la Raspeus près d'Amsterdam, qui sont en fait des grands bâtiments dans lesquels vont s'organiser une production, donc une filature dans certains cas, une sorte d'écolage, et qui va abriter une population très diversifiée, des étudiants boursiers qui veulent apprendre les métiers de la filature d'une part, des pauvres d'autre part, qui n'ont pas d'autre choix pour être nourris que d'être internés dans ces infrastructures, et également des condamnés. Et donc l'origine quelque part de la prison n'est pas qu'une origine théorique d'un panoptique utopique, mais provient bien d'un renfermement qui concernait de manière plus ou moins égale, mais à des pauvres, des fous et des délinquants.
Donc il y a véritablement une idée de contrôle social à la base, on le voit dans les parallèles que vous faites effectivement avec la folie et la précarité ou l'indigence. Pour autant, le bâtiment prison existait avant l'invention de la peine de prison.
Alors, le bâtiment prison ne s'appelait pas prison, puisque pour s'appeler prison, c'est en réalité un outil de privation de liberté comme peine. Mais il existait évidemment des types d'enfermement, différents types d'enfermement, notamment des enfermements préventifs. Donc, quand un criminel se fait attraper, eh bien, on l'enferme avant de le juger. Ces enfermements-là ne sont pas du tout une peine en réalité, c'est simplement une manière de protéger à un moment donné la population, d'empêcher la personne de détruire des preuves ou simplement d'échapper à la justice. Donc là, c'est une détention préventive qui n'est pas une peine en soi. On pourrait parler de l'embastillement également. Ben dans la Bastille, les gens qui y sont ne sont pas punis par l'État en réalité. Ils sont soit protégés, soit soustraits à la vue de l'État, soit placés là par des lettres de cachet, par des pères qui en ont marre que leur fils dilapide la fortune et qui vont les embastiller. Et donc, on n'a pas affaire à des punis du tout. C'est simplement une manière de stocker quelque part des gens. Mais donc, les criminels, au départ, donc ce qui les attend, c'est pas une peine de ce type-là, c'est plutôt de la relégation, de la transportation. Donc on va les expulser de notre territoire, ou alors, comme sous l'Ancien Régime, les stigmatiser, donner des flétrissures, faire toute une série de choses qui vont faire que des stigmates vont rester sur des gens. On voulait avant que les cicatrices se voient sur le visage ou sur le corps.
Oui, il y a une histoire d'un certain raffinement comme ça en Europe sur les...
Oui, c'est fabuleux. En fait, on n'imagine pas ce que l'être humain est capable d'inventer pour... Oui, c'est très raffiné, effectivement.
Mais donc, finalement, la construction des prisons, en tant que telle, c'est quelque chose de plutôt récent, si on peut dire, dans l'histoire générale. Mais donc, il y a quand même dû avoir aussi une réflexion qui a dû se mettre en place, puisque d'office, les gens étant enfermés plus longtemps, on a dû certainement devoir construire plus de bâtiments, puisqu'avant, ils étaient là dans une sorte de zone transitoire. Donc, l'enfermement devait durer un temps relativement restreint. Lorsqu'on est passé à des peines longues, il y a du coup toute cette question de se dire comment va-t-on faire pour construire tous ces nouveaux bâtiments qui vont devoir accueillir toutes ces personnes qui vont rester enfermées fort longtemps.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est contemporain avec la naissance de la Belgique. Donc si on étudie simplement la Belgique, avec Duc Pessiot qui est le premier directeur général de l'administration pénitentiaire, en 1830, on a affaire aux premiers établissements pénitentiaires qui vont se construire un peu partout, évidemment. Évidemment, le fait de devoir construire pour donner une peine, ça veut simplement dire construire un instrument de torture. Et donc, je veux vraiment revenir là-dessus. Entre guillemets, cet instrument de torture, il est humain ou humanitaire, quelque part. L'invention, c'est clairement ça. Tout est objectivé, tout est devenu propre, et on est persuadé qu'en isolant complètement des gens, en fait, on va leur permettre de s'amender, de protéger la société, d'intimider la société de manière très, très clean. Donc, la prison est une invention humanitaire au même titre que la guillotine, en réalité, qui est également une invention humanitaire et qui est créée, finalement, pour éviter un spectacle atroce qui avait lieu avant l'invention de ça. Alors, il ne faudrait pas que l'émission s'arrête maintenant, évidemment, parce qu'il faut voir, évidemment, tous les dérapages et tout ce que ça a pu procurer. Mais systématiquement, quand on crée des sociétés comme ça, avec des intentions humanitaires, la manière dont les choses évoluent sont à observer. Et voilà pourquoi le dossier dérivation ici, je suis vraiment content que vous ayez fait un travail sur le lien ville-prison, puisque c'est quelque chose qu'on veut particulièrement cacher. Le fait de mettre quelqu'un en prison maintenant, c'est le soustraire à la vue de la société, le mettre entre parenthèses, et on pense que tout est réglé en le mettant entre parenthèses, quoi.
On va faire une première pause musicale pour méditer sur le sens de la guillotine comme outil humanitaire. Et puis on revient tout de suite. Et comme on est aussi un peu facétieux, on va écouter Le Galérien d'Yves Montand.
Je me souviens, ma mère m'aimait et je suis en galère. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Ne traîne pas dans les ruisseaux, te bats pas comme un sauvage, t'amuse pas comme les oiseaux, elle me disait d'être sage. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais courir la chance. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais que chaque jour soit dimanche. Je me souviens, ma mère pleurait dès que je passais la porte. Je me souviens comme elle pleurait, elle voulait pas que je sorte. Toujours, toujours, elle disait, t'en vas pas chez les filles, elles n'ont pas toujours ce qui te plaît, dans les prisons y a des grilles. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai cru Madeleine. J'ai pas tué, j'ai pas volé, je voulais pas lui faire de peine. Un jour les soldats du roi t'emmèneront aux galères. Tu t'en iras trois par trois, comme ils ont emmené ton père. Tu auras la tête rasée, on te mettra des chaînes, t'en auras les reins brisés, et moi j'en mourrai de peine. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère. Et je me souviens qu'elle m'aimait pendant que je rame aux galères. Oh, dee, oh, dee, oh, dee, oh,
Vous êtes bien sur 48FM, on va reprendre sur le dossier des prisons. On en était resté au fait que la prison était vue comme un objet humaniste à l'époque où le fait de purger sa peine en prison a été développé. Peut-être qu'on va essayer de voir maintenant comment on en est arrivé à un phénomène que les prisons se trouvaient plutôt dans les villes ou en proche périphérie des villes au début de leur construction, alors que maintenant on est plus dans un phénomène d'éloignement ou de périurbanisation de la prison. Donc comment cette évolution a pu se marquer
Oui, tout à fait. Donc évidemment, ce n'est pas étonnant de voir que la prison et sa position dans le territoire dépend de l'évolution des structures sociales et du territoire globalement. Donc au départ, je disais, la prison est un objet théorique, la prison en tant que punition est un objet théorique, le panoptique de Bentham. Et puis rapidement, dès la création de la Belgique, pour cadrer ça chez nous, les premières prisons en fait, vont se situer tout simplement en bordure des centres urbains. Si je prends l'exemple de Liège, par exemple, la prison Saint-Léonard se trouve sur l'ancienne enceinte hein, de la ville, là où on a la place Saint-Léonard maintenant. On est à la limite en fait, entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. Symboliquement, ça veut dire beaucoup de choses. Ce sont à ce moment-là des petits établissements hein, de quarantaine à une centaine de places et qui sont donc situés vraiment non pas en périphérie mais vraiment en bordure, je vais dire, de la ville dense, de la ville historique. Dans les années 1830, en fait, ou dans le 19e siècle en général, les prisons du modèle qui s'appelle Duc Pessiot, donc qui était le directeur justement de l'administration pénitentiaire, qui met en place un modèle de prison particulier, hein, en étoile, ces prisons vont s'insérer dans le tissu urbain qui est la première couronne périphérique, en fait, au centre historique, donc la première couronne du 19e. C'est le cas de la prison de Verviers, la prison de plein de Mons, Arlon, etc. Énormément de prisons en Belgique ont été construites sur ce modèle-là. La particularité de ces modèles proches de la ville, c'est que non seulement elles sont accessibles facilement depuis la ville, à pied, à vélo, tout ce qu'on veut, mais donc la voiture n'est pas nécessaire du tout dans ce cas-là, et surtout elles sont intégrées dans le tissu urbain, de sorte que les prisons occupent par exemple un îlot à l'échelle d'un îlot d'habitation, par exemple. Il y a un trottoir continu sur le long des murs, il y a vraiment une architecture particulière.
On fera peut-être un petit point avec Lucas sur la prison de Saint-Léonard, puisque toi tu as travaillé là-dessus, donc dans le cas de Liège, ouais, effectivement, mmh, tu peux peut-être expliquer ce qu'était la prison pour ceux qui n'ont pas connu cette époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Ben, à l'emplacement de l'actuelle esplanade Saint-Léonard, il y avait un très grand bâtiment en style néogothique, si je ne me trompe pas, qui a été érigé entre 47, je lis mes notes, 47 et 51, oui. Et donc, oui, qui se trouvait à l'ancien endroit de la...
De 1847.
1800, c'est ça. Donc du coup, c'était ce grand bâtiment qui était vraiment intégré dans l'espace urbain. Et voilà, moi, j'ai été à la rencontre pour ça, comme je le disais, de gens qui ont connu le quartier. Maintenant, c'est difficile d'en rencontrer qui ont connu le quartier il y a très longtemps, mais généralement, j'en ai trouvé qui ont connu le quartier dans les années 70. Ce qu'ils me disent généralement, c'est que étrangement pour eux, c'était quelque chose d'assez normal, d'assez habituel. Il ressort aussi de ce que j'ai vu que la prison marque assez fort aussi l'identité d'un quartier. Forcément, voilà, quartier Saint-Léonard qui, après la fin de la prison, a connu aussi un déclin, mais qui n'est pas explicable uniquement par le départ de la prison, bien sûr, mais par un tas d'autres phénomènes, comme la disparition des petits commerces, etc. Une paupérisation du quartier aussi. Tout ça fait que, à Saint-Léonard, il y a eu aussi cette identité de... qui était un peu le quartier malfamé, qui était un peu le quartier qui n'était pas sûr, etc., dans lequel, je pense, en tout cas, chez certaines personnes que j'ai rencontrées, la prison jouait un grand rôle. Voilà, et ce que David, tu disais, est tout à fait vrai. Il y avait un passage du bus, il y avait le pont Maguin juste en face. Mmh. C'était vraiment l'entrée de la ville, en fait, et la prison donnait sur l'entrée. Sur cette entrée de la ville.
Tout à fait. Et les prisons à l'époque étaient finalement non seulement intégrées à la ville, mais très connotées par rapport à une ville. C'est-à-dire qu'on enfermait des Liégeois à Liège, des Verviétois à Verviers, etc. Pour des prisons qui sont relativement intégrées au tissu urbain, même si c'est moche quelque part, même si un grand mur très haut en briques peut être un peu rébarbatif, ça n'a rien à voir avec les prisons actuelles, évidemment, je vais l'expliquer, qui sont complètement soustraites alors au milieu urbain. Elles sont malgré tout donc intégrées avec une prise en charge finalement du visiteur ou en tout cas de la personne qui va y entrer. Pour la prison Saint-Léonard, par exemple, il y a toute une série de choses intéressantes dans le rapport au quartier. C'est par exemple les coteaux qui se trouvent sur l'arrière n'étaient pas boisés du tout à l'époque. Et pas mal de familles de détenus allaient se balader là-bas pour voir des détenus dans la cour au moment de la promenade. Il y avait une espèce de proximité comme ça, familiale, qui pouvait... voilà. Donc on est là dans le cadre encore de petites prisons de ville, dans une politique urbaine vraiment particulière qui... touche à sa fin, en réalité, en Belgique, dans le courant des années 70. À la fin des années 70, où là, il y a plein de choses qui vont se passer. Il n'y a pas que la prison qui va partir. L'hôpital de Bavière, qui se trouve en face, s'en va en même temps, et l'université part au Sartilement. Donc, la même année à peu près, trois grosses fonctions urbaines donc, sont externalisées. Et c'est ce qui s'est passé avec la prison de Lantin. Donc, on a construit la prison de Lantin au moment où on a démoli la prison Saint-Léonard pour construire une infrastructure beaucoup plus grande qui faisait un peu matière d'exception dans les prisons belges. Là, on est passé vraiment à une prison pour 600-700 détenus détenus au départ. Il y en a 900 maintenant. Donc on est arrivé vraiment à une grosse structure, mais qui n'a plus rien à voir avec l'implantation des précédentes, dans la mesure où elle se trouve maintenant à l'extérieur de l'étalement urbain, du tissu urbain, mais même à l'extérieur de la zone à bâtir. Donc elle est en fait en zone agricole. Si on regarde ça sur un plan de secteur, on est à quelques mètres de la zone d'habitat, dans un champ. Il y a un espace réservé pour le gouvernement où on a construit cette prison. Donc au lieu d'être sur la première enceinte ou juste à l'extérieur de la ville, elle est maintenant juste à l'extérieur de l'étalement urbain, en zone agricole, accessible évidemment par la voiture, par les autoroutes.
Est-ce que ça participe d'un phénomène d'éloignement de la ville, donc d'éloignement urbain qui est assez conséquent sur... qu'on connaît bien, qui est bien documenté ici en Belgique, mais enfin qui existe partout en Europe, ou est-ce que ça correspond à autre chose, à une rupture de paradigme sur le rôle social aussi de la prison c'est une volonté d'éloignement de la ville, parce que la ville, en règle générale, s'éloigne d'elle-même, ou est-ce que c'est une volonté d'éloignement de la prison pour d'autres raisons ?
Deux choses, à mon avis, c'est une logique de toute façon territoriale générale, c'est-à-dire que l'étalement urbain, le tout à la voiture, le développement économique, etc., fait que ces infrastructures-là sortent de la ville pour toute une série de raisons dont vous avez parlé d'ailleurs précédemment. Donc la prison, il n'y a pas de raison que ça soit étranger à ça. Mais parallèlement à ça, il y a évidemment la vision de la peine, l'économie de la peine, qui fait qu'on va rassembler maintenant des détenus qui viennent d'un peu partout, de toute une région, dans un endroit qui est facilement accessible, de nouveau en voiture, par l'autoroute, et qui est donc déconnecté réellement d'une ville, d'une approche un petit peu plus vicinale, entre guillemets. Donc il y a une volonté de rassembler, de rendre plus économique et plus rentable, quelque part, la peine, et en même temps une logique territoriale qui consiste à éloigner les grosses fonctions de la ville.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'idée de se dire qu'on crée comme des sortes de bâtiments iconiques ? On sait alors ainsi distinguer clairement la prison, comme on a su peut-être au préalable distinguer clairement les zones industrielles en sortant les petites industries de la ville et en créant des zonings, comme on sait distinguer peut-être clairement les zones universitaires et les campus, et de se dire toutes ces fonctions-là deviennent un peu comme des modèles et des icônes en tant que telles. On ne pense plus forcément le bâtiment, mais la fonction.
Oui, tout à fait. Ce qu'il faut peut-être nuancer là, c'est justement dans le terme icône ou dans la visibilité justement de la prison. En ressortant des infrastructures comme un hôpital, une université, on s'attend à ce qu'on construise des choses qui soient agréables à vivre, qui soient belles et qui se voient de loin et qui s'identifient comme telles. Les prisons, ce n'est pas ça. Le but d'une prison, quand on l'éloigne de la ville, c'est de l'effacer quelque part. Donc déjà, je vous disais, le mur de briques pouvait être un petit peu rébarbatif en plein centre urbain. Mais alors là, en matière de construire quelque chose de moche, Alentin, c'est pas mal. Là, on est carrément dans simplement un îlot qui est tout à fait artificiel au milieu des champs, autour duquel on a planté des cyprès. Et on a construit un mur d'enceinte qui isole complètement la prison de son contexte. Et cette idée d'isoler la prison de son contexte, ce n'est pas pour lui en donner une image particulière, c'est plus, à mon avis, pour l'effacer. Et on est maintenant dans une dynamique, puisque là on était dans les années 80, maintenant on est donc en 2016, dans une dynamique qui pousse un petit peu cette logique-là à son paroxysme, en construisant ce qu'on va appeler des prisons-villages. Prison-village, c'est sympa comme nom, parce qu'un village, c'est joli. Il y a un aspect communautaire, etc. Tout va bien. En fait, une prison-village, c'est une enceinte dans laquelle il y a des pavillons, et ça n'est un village... Évidemment que vu du ciel, ça n'a bien entendu rien à voir et ça n'a aucun rapport strict avec son territoire proche ou son territoire immédiat. Donc on confisque vraiment, on met le détenu, on met le prisonnier et le personnel, enfin la prison en général, vraiment on l'invisibilise, si je puis dire, par rapport à la ville, on la cache par rapport à la ville. Mais paradoxalement, elles sont de plus en plus grandes et de plus en plus sécurisées.
Et ça, c'est un phénomène qui est belge, qui est européen, qui est mondial.
Alors, on a toujours évidemment un petit temps de retard sur les Américains qui ont tout compris avant, qui ont fait des parcs pénitentiaires gigantesques et qui ont tout privatisé déjà dans les années 60, ça commençait. Dans les années 80, on a des États entiers qui ne fonctionnent aux États-Unis que sur l'économie de la prison, qui sont réellement des espèces de grandes villes ou de grandes régions prison quelque part. Donc, c'est une tendance qu'on peut rapprocher de l'évolution de nos sociétés maintenant. Donc effectivement ça arrive partout et les alternatives existent aussi mais sont évidemment plus rares et sont à mettre en perspective des dynamiques économiques et régionales évidemment.
On reviendra sur ces questions des alternatives un peu plus tard. Peut-être faire un état des lieux sur l'état de la prison en Belgique aujourd'hui, parce qu'évidemment, ici à Liège, on a la question de Lantin, qui est assez archétypique aussi dans le genre prison excentrée, mais la prison de Verviers a fermé très récemment, et pour être faite, elle continue d'être en centre-ville. La prison de Saint-Gilles, que les associations pointent régulièrement pour sa vétusteté, existe toujours, pour le coup, en plein milieu du bâti urbain dans Bruxelles, même si à la base, effectivement, au moment de sa construction, ça devait être en première couronne de la ville. Aujourd'hui, Lantin, c'est la seule qui est de prison excentrée, ou est-ce que...
Non. Donc, c'est-à-dire que Lantin était le premier modèle, quelque part, de grosse prison qui était un peu éloignée des centres urbains, mais...
Liège était pionnière, il faut le noter. Hein.
Oui, tout à fait. Oui, on peut. Il y a eu la prison de Jamiu un peu avant ça, en 75, je pense, qui était aussi un nouveau modèle. Et donc, des prisons comme les prisons d'Andenne, etc., ont été construites un peu de la même manière en dehors des centres urbains. Les nouvelles prisons qui se construisent dans le cadre du master plan, comme Marchand-Famenne, Lezan-Hainaut, etc., sont également en zone industrielle, le plus souvent, un petit peu à l'extérieur de la ville. Mais effectivement, il existe toujours des implantations et des prisons au cœur des villes. Et là, le master plan et la régie des bâtiments prévoient de les rénover, d'augmenter ou de diminuer le nombre de cellules, les rendre plus salubres, etc. Et donc d'en faire des outils, malgré tout, qui puissent continuer. Donc le master plan ne vise pas que à construire des grosses prisons à l'extérieur, même s'il le fait et que c'est regrettable, il ne fait évidemment pas que ça. Et les petites prisons à l'intérieur des villes sont pour la plupart conservées et rénovées. Oui.
Est-ce que dans ce modèle, on pourrait envisager une sorte de retour alors de la prison en ville, si on peut dire, ou de réinsérer un type de modèle carcéral dans un contexte plus urbain?
Mais c'est le principe justement des différentes alternatives et de tout ce qu'on peut développer par là. Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui se passe avant, c'est la question économique en fait. Comment est-ce qu'on fait pour construire une prison? Ça coûte très cher, ça coûte plus cher qu'un hôpital. Si on voit ça par rapport au nombre de détenus, on s'aperçoit qu'un détenu coûte très très cher. Pourquoi est-ce qu'il coûte très cher? Parce que la prérogative par rapport aux prisons, c'est pour le moment la sécurité. C'est-à-dire qu'on va d'abord construire un lieu complètement sécurisé d'où personne ne pourrait évidemment s'évader. Mais ça, on l'a toujours dit, hein. On fait des prisons inviolables, imprenables maintenant, mais je ne connais aucune prison qui a été faite pour qu'on puisse s'en évader. Donc elles le sont toutes inviolables au départ. Maintenant, on construit des prisons avec un degré technologique fou qui coûte extrêmement cher et qui veut dire en fait qu'on applique la même vigilance de sécurité pour tous les détenus. Or, si on s'intéresse un peu à la population détenue, on voit vite que les degrés de sécurité ne doivent pas être identiques pour tout le monde. Il y a une grande partie des détenus qui n'ont pas besoin de barreaux aux fenêtres, en fait. Il suffit d'une condamnation et d'une injonction de rester à tel endroit pour que ça se passe très bien. Tous ces détenus-là pourraient évidemment coûter beaucoup moins cher que la situation actuelle qui donne le même niveau de sécurité à tout le monde et qui coûte un pont.
On va refaire une petite pause musicale, mais c'est vrai que construire à Cayenne ou le Château d'If sur une île méditerranéenne, ça permettait d'avoir de l'infranchissabilité à moindre coût.
Tout à fait, oui, c'était le but. Oui.
Le bagne était quand même, d'un point de vue économique, le meilleur modèle qui soit. Sur cette boutade, on fait une pause, on écoute Feeling Good par 2011.
Through the soul of a body whose whole understands passion, no longer treating my art as rapping, being uplifted by the clapping. See, the sun was made to fade away the tears, suffer by those who couldn't make it. Over the years, we're trying to break the curse and reimburse those who still live in fear. See, my artistry is a part of me, and it's hard to see where I worked hard to be. But those who see my pain and understand this game realize this is more than just fame. We're trying to make it, no way we've made it. You say you got it, well, now it's taken. You ever felt this is called passion? You ever heard this real rapping mixed with some rock and a little soul? And some people in my shows packed to the dough, hands in the air, feet on the floor, trying to lead the stage, but they wanted more. Oh, yeah.
you didn't know we doing impossible. I just took a mic and changed my life. Now everything got right, it's reaching new heights. So we're flying high, high as a kite. Face, how that taste? So we creeped up, oh no way. Got what we want, got what we need. Got in the car, increase the speed. 1, 2, 3, now you know we don't play G-A-M-E's. Get in the room, camera start the zone. Flowing like a flume, turn the volume up so loud. Wall to wall sound, bring the roof down. Then insert the crowd, twist it like a dread. Bust a couple legs, make a little bread. Then go to bed, what y'all is? How y'all lame? What we is? Almost fame. Where am I? What's my name? First name Brad, last name James. Living like kings, doing big things. First start to end, Dallas start to sing. First flying high, look at the sky. Living life side till I die.
Et on est de retour sur les ondes de 48FM, toujours en compagnie de Lucas Pidiou et de David Tillman pour parler de prison. Et le sujet est vaste, passionnant, je ne sais même pas si on aura le temps de faire le tour de la question, mais j'avais quand même une question à poser, parce que interroger la question de la prison et de la ville, ça évoque le fait, évidemment, le rapport de la prison à la ville, de le rapport de la prison avec l'extérieur. Mais la prison intramuros pourrait quasiment être définie comme une ville en soi, dans le sens où ça correspond à ses propres codes sociaux, ses propres fonctionnements, à son architecture interne, son urbanisme interne, etc. Est-ce que cette vision de l'espace intramuros comme étant quasiment urbain en tant que tel n'a pas facilité aussi l'exportation de la prison en dehors des villes?
Puisqu'on est dans une sorte de modèle autonome, du coup peut-être que le fait de le relier au reste du contexte urbain est plus difficile, puisqu'elle peut être considérée comme une petite ville en tant
tout
que telle.
Tout à fait, oui. Et ça va de pair avec l'idée de croire que la criminalité punie est un espèce de tout cohérent qui peut justement former une espèce de société à l'intérieur de murs, parce qu'on regroupe des gens de nature très très différentes, même si on en parlait tout à l'heure, là il y a une population très stigmatisée, notamment de pauvres qui sont punis davantage que d'autres, mais en même temps, on regroupe, si vous voulez, tous les condamnés dans un même endroit en pensant qu'on va faire société ou faire communauté comme ça, et ça permet d'excuser quelque part le fait de les regrouper. Mais dans la pratique, évidemment, ça ne marche pas, puisque faire une sorte de communauté dans laquelle le détenu va pouvoir s'épanouir, etc., c'est peut-être justement l'empêcher aussi de ressortir. Donc, si cette communauté n'est envisagée que sur elle-même, sans contact avec l'extérieur, sans permission de maintenir un lien social, eh bien évidemment ça ne peut poser que des problèmes, et la peine de prison va avoir l'effet inverse, c'est l'effet qu'on va appeler de prisonnisation, qui va faire en sorte qu'un détenu va peut-être trouver des associations de gens qui vont le maintenir dans un milieu duquel il ferait mieux de s'extraire. Ouais.
Et surtout qu'on parle de la question de communauté, on est quand même dans une communauté forcée, puisque le vivre avec les autres est subi. Mais il y a aussi toute la question de la surpopulation carcérale, peut-être qu'on peut en dire un mot, puisque la vie dans ces prisons devient d'autant plus difficile qu'elle est de toute façon contrainte, et en plus elle dépasse peut-être le seuil que la prison peut vraiment absorber de personnes présentes.
Donc là, il y a évidemment beaucoup de choses à dire sur la question de la surpopulation. On sait que depuis que la prison existe, elle est surpeuplée. Et depuis que la prison existe, elle est en réforme. C'est-à-dire que systématiquement, on se dit, tiens, il y a trop de détenus, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y a plusieurs manières de résoudre ça, mais la première, c'est de se poser la question du nombre de détenus par rapport à la société dans laquelle on vit. Il y a des recherches très intéressantes qui sont faites là-dessus, notamment Charlotte Van Est qui a très bien observer très finement l'évolution des chiffres des prisons pour se rendre compte qu'on enferme, la courbe d'enfermement, si vous voulez, est similaire à la courbe du chômage. C'est-à-dire qu'on n'enferme pas en fonction de la criminalité, on n'enferme pas en fonction de la dureté, on enferme simplement en fonction de la situation socio-économique et de l'insécurité sociale d'un pays.
Alors, je vais vous titiller un peu, corrélation n'est pas causalité, le fait que le chômage explose, la précarité aussi, pousse évidemment, on peut le comprendre assez facilement aussi, enfin fait augmenter la délinquance, peut-être que la courbe des prisonniers...
Ça c'est le paradigme qui consiste à dire qu'on punit en fait en prison des actes délinquants. L'autre paradigme serait de dire qu'on ouvre des places de prison pour résoudre une situation économique ou socio-économique qui permet de réguler le chômage en mettant des gens de côté ou en faisant peser sur eux en fait une pression qui ne leur permet plus d'avoir une forme de représentation sociale. Et donc là évidemment il faut relire Foucault pour ça. Est-ce que c'est la poule ou l'œuf ? Bon voilà, c'est bien entendu la question. Ce qui est de toute façon constant, c'est qu'on a systématiquement un manque de cellules. On a trop de détenus par rapport au nombre de cellules. Au total, sur les prisons belges, je ne vais pas vous en faillir de chiffres, mais on est globalement à 12 à 15% de surpopulation, en moyenne en considérant toutes les prisons. Mais certaines prisons d'un certain degré de sécurité n'ont pas de surpopulation. Donc il y a encore plus de surpopulation qui pèse sur les autres. 30% par exemple à Lantin. On a pour le moment sur 11 700 détenus qui sont enfermés, on a 9500 places. Donc on a plus ou moins 1800 détenus qui sont excédentaires et donc qui sont obligés de se retrouver en duo, en trio parfois. Donc duo-trio, ça veut dire dans une cellule de 9 mètres carrés, on met 2 ou 3 personnes parce qu'on ne peut pas faire autrement. Alors maintenant, à quoi elle est due cette surpopulation et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça ? Eh bien, en réalité, il y a énormément de manières de lutter contre ça et le nombre de cellules n'est qu'un aspect et c'est finalement presque le symptôme ou c'est la dernière chose. Pour lutter contre la surpopulation, on peut travailler sur la notion de préventive. Enfermer quelqu'un préventivement sans le condamner, fait augmenter évidemment le nombre de demandes en matière de cellules. Le nombre, pardon, oui.
J'ai une question sur ça parce que finalement Lantin. Peut-être parler un peu concrètement de l'organisation de la prison. Lantin, oui. Il y a une maison d'arrêt et une maison de peine. C'est-à-dire, la maison d'arrêt, on est mis aux arrêts en attendant de purger sa peine. Mm-hmm. Donc, une fonction qui, en fait, était déjà avant l'invention de la prison en tant que prison, qui était la fonction première des bâtiments, qui se maintient dans le temps, est la prison de peine où les gens vont purger leur peine. Avec des conditions et un contrôle, par ailleurs, sur les conditions de détention beaucoup plus strictes, et donc des libertés, enfin, un respect des droits beaucoup plus strict, a priori, en maison de peine qu'en maison d'arrêt. Mm-hmm. Lantin, par exemple, est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes qu'il y a en maison d'arrêt, en maison de peine ?
Oui, dans deux secondes, à la louche, je vais vous le donner. Mais donc, ça correspond à plus ou moins 300 et 600. Donc, si je mélange le quartier homme et quartier femme, je pense qu'on en est là. Donc, il y a moins de... globalement, en Belgique, il y a deux fois moins de prévenus que de condamnés. Hein. Mais la quantité de prévenus, c'est ça qui fait vraiment une pression énorme. Alors, ce qui se passe, évidemment, à Lantin, par exemple, pour être très concret, la maison d'arrêt, c'est ce qu'on appelle la tour. Donc, c'est ce que vous voyez de loin en passant sur la route à 500 mètres de là. Il y a 8 niveaux de hauteur et c'est là que l'on met justement les gens qui ne sont pas encore condamnés. Et on réserve à la maison de peine qui effectivement est plus, le degré même d'hygiène, etc., est un petit peu plus facile à contrôler et plus supportable. Le problème, en fait, c'est que pour des raisons de sécurité, on ne peut pas augmenter indéfiniment le nombre de détenus en maison de peine. Ce qui fait qu'on met dans la maison d'arrêt également des gens condamnés. Des gens condamnés en maison d'arrêt en attendant d'avoir une place en cellule. Donc ça, on est dans des situations complètement dingues. Et c'est même pas la plus dingue parce que au-delà des condamnés qui n'ont pas de place en cellule, on avait également ce qu'on appelle des internés. Donc des internés sont des gens qui font l'objet d'une mesure de défense sociale, qui ne sont pas condamnés à une peine, qui sont jugés responsables de leurs actes, mais qui sont par ailleurs peut-être dangereux pour la société, et qui ont été enfermés dans les prisons, au départ dans des annexes psychiatriques. Quand il n'y avait plus de place dans les annexes ou comme quand à Lantin on l'a fermé, ils se sont retrouvés avec des détenus de droit commun et ils se sont retrouvés dans des situations sans pouvoir être aidés avec un personnel qui n'était pas formé à ça. Ils ont contribué également à l'augmentation de la population. Et donc la manière de régler, de travailler sur la population, la surpopulation, c'est, je disais, de mettre moins de gens en préventive, d'avoir un nombre de peines qui diminue, d'avoir des durées de peines peut-être qui diminuent ou qui sont... Peut-être pas qui diminue systématiquement, mais qui serait peut-être plus malléable grâce notamment aux libérations anticipées, aux libérations conditionnelles. Tous ces outils-là, et également faire sortir les internés de prison, tous ces outils-là permettent de jouer sur la surpopulation. Et en fait, le nombre de cellules, je vous disais, n'est que le symptôme. Et on peut constater qu'à chaque fois qu'on construit des nouvelles cellules, avant qu'elles ne soient terminées, elles sont surpeuplées. Donc on augmente, on pourrait dire ici, il suffit de construire 1000 cellules et ça sera réglé. Mais non, la mécanique de la justice va faire qu'on va simplement condamner plus. C'est systématiquement ce qui s'est passé. On a plus de place, on condamne donc plus. On a été jusqu'à louer une prison à Tilburg qui a coûté vraiment extrêmement cher à l'État pendant un temps parce qu'on avait trop de détenus, on ne savait pas quoi en faire. Et donc il fallait bien les mettre quelque part dans des bonnes conditions et les Hollandais ont très bien compris qu'ils pouvaient gagner un maximum d'argent en louant ça à l'État belge en attendant qu'on construise. Donc on construit des nouvelles places, on sait qu'elles seront surpeuplées rapidement et on sait aussi que quand on construit une prison, que ce soit le modèle du Pessio ou d'autres, avec au départ du projet des cellules une place, et que l'on met trois adultes dedans, ben ça va poser plein d'autres problèmes. Alors on n'a pas trop le temps de parler de ça, mais la manière dont l'incarcération est vécue de l'intérieur est systématiquement un traumatisme vraiment très très brutal par rapport à la personne qui vit en prison, qui ne correspond plus du tout à une peine privative de liberté. On le prive d'un tas d'autres choses, y compris d'hygiène, y compris d'intimité. Et donc la pratique, si vous voulez, de la prison et la mise en pratique de cette peine est devenue maintenant dramatique et est devenue pratiquement une torture incontrôlée aussi.
Peut-être qu'on peut essayer de parler un peu de l'avenir des prisons, de voir quels seraient peut-être des modèles ou des nouveaux modèles carcéraux qui se mettent en place et quels avenirs ils pourraient avoir. Et aussi de se dire, est-ce qu'il n'y a pas un après la prison ? On a vu que la prison était une avancée humaniste, si on peut dire. Est-ce que peut-être demain, enfin dans un avenir plus ou moins lointain, de nouveaux modèles carcéraux pourraient se mettre en place ? Par exemple, dans la revue Dérivation, un article a été abordé, il me semble, sur le système Huysen. Peut-être que Lucas, si tu sais nous dire un mot.
Un mot et pas beaucoup plus, alors. Le système Huysen, c'est un peu l'inverse de certaines grandes prises, de projets de grandes prisons doivent être construits avec le dernier masterplan. Là, peut-être que David saura en dire un mot après. Mm-hmm. Et donc, le projet Huysen, c'est le fait de construire des petites maisons à l'intérieur de certains quartiers avec plusieurs détenus qui auraient des fonctions et des relations avec la société. Je ne sais pas si ça va jusque... Je crois que dans le modèle de Hans Claus, le fondateur de ce modèle, en Belgique en tout cas, il y avait des fonctions comme s'occuper de petites tâches dans le quartier.
Oui, il y a une relation effectivement avec à la base du projet. Donc ça consiste à construire des petites infrastructures qui vont abriter entre 10 et 20 personnes, plus ou moins, et surtout qui seront, les personnes qui seront là seront triées, il y aura une forme de sériation qui va se faire, et donc le type de maison qui va être construite dépendra justement du type de peine que l'on veut faire. Et donc il y aura différents degrés de sécurité, ce que je vous disais tout à l'heure, donc appliquer beaucoup de sécurité, beaucoup de technologie à énormément de monde, eh bien on échappe un petit peu à ça. Ça c'est un premier avantage. Un deuxième avantage, c'est évidemment d'essayer de maintenir une forme de lien social de la personne détenue, puisque comme je vous le disais d'entrée de jeu, on pense qu'on met quelqu'un entre parenthèses, mais un jour ou l'autre, il ressort évidemment, et c'est tout l'enjeu est de préparer cette sortie et de faire en sorte que le séjour, la punition, le séjour privatif de liberté, serve à quelque chose. Dans ce cas-là, Huysen est bien, mais c'est un projet qui peut être taxé d'utopiste ou qui peut être vu par des juristes ou même par la population générale comme simplement une utopie.
Mais Mais il y a ce problème de, effectivement de la réinsertion qui, en tout cas dans les témoignages qu'on a été recueillir en maison d'arrêt à Lantin, qui est vraiment vécu comme un très gros problème, en plus de, du manque d'intimité, de la promiscuité et de la surpopulation qu'ils vivent vraiment. Par exemple, c'est uniquement 2 douches par semaine, c'est 1 heure de sortie sur la journée.
Et c'est un grand paradoxe, évidemment, parce que le lien social et le fait de maintenir des liens familiaux, des liens professionnels, c'est une condition pour pouvoir sortir plus tôt de prison, c'est-à-dire pour pouvoir obtenir des congés, au tiers de sa peine on peut les obtenir, et obtenir une libération conditionnelle. Il faut savoir que quand on a une libération conditionnelle, comme son nom l'indique, dans les libérations anticipées, il y a des conditions, c'est-à-dire que le détenu est toujours soumis à toute une série de contrôles et il doit rendre des comptes. Quand il arrive en revanche à fond de peine, le détenu sort et est complètement libre de tout. Il redevient un citoyen et n'est plus du tout suivi. En fait, cette période de transition qui est maintenant liée à la libération anticipée est vraiment très intéressante quelque part en termes de réinsertion et en termes de raccroche, je vais dire, à la vie sociale. C'est la première chose qui tombe à chaque fois qu'un criminel commet des délits ou des crimes en étant justement conditionnel. L'opinion publique dit qu'il faut supprimer les conditionnels. En fait, c'est le seul outil qui permettent justement d'avoir une peine juste et de pouvoir moduler justement cette peine-là et que la peine serve réellement à quelque chose.
Vous dites le mot qui, moi, me paraît le plus... Le concept clé, en fait, dans la question de la prison, c'est l'opinion publique, effectivement. Parce qu'on parle de prison, c'est un sujet qui nourrit énormément de fantasmes, mmh, dans un sens ou dans l'autre, avec, en fonction de sa sensibilité, on va dire, politique, idéologique, philosophique, etc., avec une vision de la peine. Qu'est-ce que la peine? Pourquoi la peine? Avec toujours des accusations dans un sens de laxisme ou autre. Enfin bref, effectivement, où on dit la liberté conditionnelle, mais il a été condamné, il doit faire sa peine, etc. Et en même temps, l'éloignement des prisons des centres urbain éloigne aussi le prisonnier de la vue du quotidien, en fin de compte, des gens. Et donc, il y a c'est peut-être plus facile à déshumaniser le condamné ou...
Et c'est, à mon avis, une sorte d'objectif politique. En fait, politiquement, les prisons, pas seulement le bien-être, mais le droit des détenus, etc., c'est quelque chose qui n'est pas porteur du tout, d'une manière générale.
C'est défendre pas un secteur de l'électorat très intéressant.
Non, pas. Donc, du coup, on préfère ne pas mettre ça en avant, sauf les quelques députés qui ont fait un petit séjour en prison, qui du coup deviennent sensibles à ça, mais ça c'est une autre question. En général, évidemment, on n'y est pas sensible. Quand quand je m'occupais de la commission de surveillance de Lantin, eh bien, en fait, des parlementaires pouvaient venir la visiter. C'était très, très rare, évidemment, d'avoir des demandes dans ce sens-là. On préfère évidemment le cacher. On peut croire, en fait, que l'opinion publique, d'un point de vue politique, les politiques seraient largués par une opinion publique qui dirait « vous êtes trop laxiste, on ne va pas payer des taxes pour permettre à un détenu d'avoir la télévision dans un cachot ».
Au même titre que peut-être que de rendre les bâtiments moins stigmatisants, est-ce que ça risque pas d'avoir un impact sur l'opinion publique en se disant que l'espace de peine n'est plus vraiment un espace de peine, si on peut dire, s'il devient plus soutenable au regard ou...
Voilà. Alors ça, c'est de nouveau toute la question de la juste peine et de l'image que l'opinion publique peut avoir des prisons. Donc je vous disais, le détenu en parenthèse, etc. Cette image-là, par rapport à la réalité de terrain, en fait, il suffit de visiter même une cellule de prison. La commission de surveillance de Lantin fait une campagne pour le moment de sensibilisation en montrant une maquette grandeur nature d'une cellule avec vraiment tout l'équipement. Donc vous avez soit un seau hygiénique ou un WC, un lit superposé et une armoire. Tout ça dans la même pièce où on mange, où on dort, où on reste parfois 23 heures sur 24. On montre ça et on demande aux gens, est-ce que vous pensez réellement qu'après un séjour là-dedans, les gens vont s'amender, les gens vont se réinsérer, vont aller mieux, etc. Donc on voit que l'outil n'est pas adapté. Je pense que tout le monde est capable de le comprendre rapidement. Maintenant, c'est vrai que cette idée de laxisme et de jouer au gros bras en condamnant plus, c'est bien politiquement, c'est plus porteur, quoi.
C'est peut-être, ça répond aussi d'une double, enfin, ou d'une dichotomie dans la conception qu'on a du rôle de la prison. Est-ce que la prison est un lieu de peine? Est-ce que la prison est un lieu qui a vocation à réinsérer? Et effectivement, on s'en fait rentrer dans les débats philosophiques fondamentaux sur ce qui différencie la droite de la gauche, c'est où est la responsabilité individuelle et la responsabilité collective, etc. On ne va pas rentrer dans ce débat-là aujourd'hui. Mais...
Non, mais il y a quand même un point qu'on peut aborder, c'est simplement faire ça d'un point de vue non pas moral, mais utilitaire, tout
pratique,
simplement.
Ouais, tout
c'est-à-dire que pratiquement, si vous vous condamnez quelqu'un en le mettant dans un espèce de frigo pendant 20 ans, en le faisant ressortir, qu'est-ce qui va se passer après? Donc si on ne soigne pas quelqu'un, par exemple, on laisse sa maladie évoluer jusqu'à ce que ça soit trop tard, ça va coûter juste plus cher. Donc en fait, si on veut simplement préserver ou faire des économies, en fait, on a intérêt évidemment à prendre les choses, en amont. Et ce n'est même pas de l'angélisme, ce n'est même pas une question d'opinion gauche-droite. Là, à un moment donné, c'est simplement pratiquement... pour vous dire, j'ai connu des détenus qui sont rentrés en été, par exemple, qui étaient des gens très désargentés, en moitié dans la rue... Et ils sont arrivés en t-shirt et en tongs quand ils se sont fait arrêter. Et ils sont sortis 3 ans après, en hiver, en fait, avec leurs vêtements d'origine, puisqu'ils n'avaient rien d'autre. Et ils se sont retrouvés en fond de peine, dehors, en fait, dans cette situation-là. Comment voulez-vous qu'un détenu, non seulement s'amende, mais se réinsère dans la société, redevienne, je veux dire, positif à l'égard d'une forme d'urbanité, dans ces conditions-là, c'est impossible.
A fortiori, quand le lien avec la famille est rendu difficile. Exactement. Par l'éloignement géographique aussi et symbolique. Qu'est la prison excentrique.
L'éloignement avec les familles, c'est évidemment très central, où le lien avec les familles, on essaye de maintenir ça en général dans tous les plans de détention, mais les types de visites, c'est parfois compliqué. Il y a des visites carreaux, donc derrière une vitre sécurisée où on ne touche pas la personne. Il y a des visites à table, où on est dans une espèce de cafétéria, et on a inventé des visites familiales hors surveillance, qui existent à Lantin aussi. Donc il s'agit d'une chambre où un détenu peut recevoir son épouse, sa compagne.
Les VHS, comme ils appellent ça.
Les VHS, voilà, ce sont donc les visiteurs surveillance qui sont organisés dans ce cas-ci au sein de la prison et qui produisent toute une série de quiproquos et de choses qui ne sont pas du tout plaisantes parfois, qui sont très difficiles à organiser pour le détenu, pour la personne qu'il visite, mais pour le personnel également. Et là, évidemment, il y a des alternatives intéressantes qui pourraient être développées, notamment pour des détenus de longue peine, leur donner la possibilité d'avoir des appartements provisoires, par exemple, même à proximité de la prison, avec un service d'aide qui coûterait moins cher en matière de sécurité et qui donnerait un petit peu plus de rendre moins brute, si vous voulez, la sortie de prison. Toutes ces alternatives-là, Hans Claus en parle. Il y a quelqu'un qui, ici à Liège, était très actif là-dedans, c'est Gérard de Koning, qui a écrit un petit article ici très intéressant, qui est hélas décédé trop tôt l'année dernière, et qui portait réellement ce type d'alternative. Et là, je pense qu'il y a vraiment une réflexion à avoir sur non seulement l'implantation, la taille, la fonction des prisons et l'architecture des prisons, non pas en amont finalement de la réflexion sur la punition.
Le débat est passionnant et encore des ramifications à n'en plus finir qu'on pourrait aller explorer. Malheureusement, le temps passe et les délais impartis sont déjà largement dépassés. Du coup, je vais vous remercier tous les deux d'être venus. Mais ça me permet aussi d'inciter nos auditeurs qui voudraient approfondir le sujet, d'acheter Dérivation et de lire le dossier qui va reprendre en partie ces questions-là et après, à terme, de contacter les auteurs si jamais même on veut aller encore plus loin. Je vous remercie Lucas, je vous remercie David d'être venus tous les deux. On va écouter Louis Liac, qui est assez d'actualité, qui est une Gunsolt.
Si un Dios adeu vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que tinguis sort i que trobis el que t'ha mancat. En mi si em dius et vull que el sol faci el dia molt més llarg i així robar temps al temps un rellotge aturat, que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar. Yeshipren, Yeshipren, totul fui că tu ghiduna, îl că mică pocă pocă scrius păr de
Et on est toujours sur l'erreur est urbaine, vous écoutez 48FM. Le dossier du jour, du coup, était consacré aux prisons. On vient de passer une bonne heure sur le sujet et pour autant, on est loin d'avoir réussi à ne fût-ce qu'effleurer l'ensemble des questions qui se posaient. Peut-être, Kitri, une petite conclusion ?
Donc on peut voir que le débat est parti un peu dans tous les sens, mais parce que c'est peut-être aussi un sujet qui est riche et qui apporte beaucoup de questions. On peut quand même voir qu'il y a un mouvement historique d'éloignement de la prison des centres urbains, mais c'est peut-être pas un phénomène propre qu'aux prisons, puisqu'on a pu voir que c'est aussi le cas peut-être des domaines universitaires, des hôpitaux, etc. Cependant, par rapport aux prisons, il y a quand même une implication sociale et symbolique importante, notamment qui rend peut-être le débat sur le sujet plus difficile, car ce n'est plus une réalité quotidienne au sein de la ville, puisqu'on ne voit plus la prison au quotidien, donc peut-être qu'on s'interroge moins dessus. On peut voir que tous ces points qui ont été survolés, finalement, enfin, il y a de nombreux points qui n'ont pas été abordés en profondeur, notamment peut-être la question économique, la question du master plan, mais tout ça est à retrouver notamment dans le dossier de dérivation qui sort ces jours-ci. Donc si vous voulez approfondir le sujet, ça peut peut-être être intéressant de se tourner vers ce dossier qui va être disponible en librairie.
Tout à fait, je vous incite chacun et tous à courir, à vous procurer le tome 5 de Dérivation. Et si vous ne connaissiez pas la revue, vous procurez aussi les tomes précédents qui sont tous d'excellentes factions. Merci Kitri.
Merci, au revoir.
Bye, bonne journée. Et pour nous rafraîchir un petit peu après ces 7 heures de prison, 7 heures passées avec vous en prison, je vous propose de nous libérer un peu en écoutant la rubrique « Dis-moi ta ville » qui est donc une rubrique créée pour donner la parole à des citoyens, donner la parole à des gens qui pratiquent la ville, qui font la ville ce qu'elle est au quotidien avec leur propre expérience, si ce n'est expertise, des gens qui ne sont ni universitaires, des gens qui ne sont pas des techniciens, qui ne sont pas des penseurs de la ville, mais véritablement des acteurs de la ville, chacun dans son rôle. Le mois passé, je vous donnais à entendre la voix d'Emmanuel Wegria qui a donc fondé le magasin Wattitude. Aujourd'hui, ce sera aussi une voix féminine puisque j'ai interviewé longuement Bénédicte Macatori qui est administratrice de l'ASBL Songe en plus d'être universitaire. Et l'ASBL Songe qui avait lancé, qu'on connaît à Liège, puisque c'est elle qui a coordonné et lancé le mouvement du souffle vert l'an passé, pour ceux qui s'en souviennent. Elle nous donne sa vision de la ville en tant que liégeoise, d'une part, mais aussi en tant qu'expatriée belge, puisqu'elle a vécu longuement dans une ville du sud, à Niamey précisément. Voilà, je vous laisse profiter de cet enregistrement.
L'erreur est trouvée.
Alors, mon nom est Bénédicte Macatori, je suis historienne de formation, je suis investie dans différents projets. J'ai une expérience en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Alors, j'ai vécu 2 ans à Niamey, au Niger. J'ai travaillé avec pas mal d'associations, enfance, sida, enfin, qui tournaient autour de ces problèmes et de ces difficultés-là. Et aujourd'hui, je travaille à mi-temps à l'université en sociologie du développement, donc toujours ce lien à la coopération universitaire, à l'Afrique, et investi dans d'autres projets plus collaboratifs, plus coopératifs, et notamment au sein de Songe, qui a développé Liège Souffle Vert à l'été 2016. Alors, Liège Souffle Vert, c'est quoi ? Un projet... c'était le projet d'investir, enfin un peu sur inspiration de Lausanne Jardin. C'était investir la ville avec du vert et de la culture et de l'art. Voilà. Et du collaboratif. Donc l'idée, on a lancé un concours proposant à des équipes composées de spécialistes du jardin, de citoyens et d'artistes, de proposer des projets de verturisation qui avait pour objectif de dynamiser et de montrer toute l'énergie de la ville à travers certains lieux, soit plus intimistes, soit des lieux très courus de la ville, mais où on pouvait justement y ajouter une touche de vert, de citoyen, d'art, voilà. Et l'idée était d'en faire un parcours, et à travers ce parcours, ponctuer de ces œuvres vertes, mais aussi d'espaces verts existants dans la ville, de faire découvrir ou redécouvrir une partie de la ville, hein, soyons, on a quand même essayé d'être modestes, de faire découvrir ou redécouvrir cette ville avec un regard peut-être parfois un petit peu différent. C'était une belle expérience pour nous, un succès je crois, effectivement, et nous ça nous a appris plein de choses, à la fois sur la ville, sur les dynamiques de cette ville, sur aussi comment ça, j'ai pas envie de le dire de manière trop négative, mais sur aussi les pouvoirs, les petits et les plus grands pouvoirs qui s'installent et qui agissent dans cette ville, que ça soit, je ne sais pas, le citoyen qui habite le quartier, que ça soit évidemment l'autorité qui délivre l'autorisation pour pouvoir installer quelque chose à un tel endroit. Voilà, que ça soit aussi ce que produit finalement l'installation. Il y a eu ce bateau vivre qui est resté 3 mois donc le long de la Meuse et qui a suscité beaucoup de positifs, mais aussi des regards parfois un peu négatifs. Qu'est-ce que ce vieux Raffio fait là au bord de notre superbe Meuse, sur nos superbes rives, qui ont été super bien. Donc bon, bref, voilà, je trouve que c'est très instructif aussi. Et ça fait découvrir la ville autrement, en tout cas pour nous qui l'avons organisé, qui avons mené ça à bien, un peu à l'arrache d'ailleurs en termes de temps, mais voilà, donc de citoyenne lambda, je ne dis pas qu'on passe à un autre statut, ce n'est pas du tout ça, mais c'est plutôt qu'on voit la ville aussi autrement et à travers d'autres prismes, voilà, que l'utilisation quotidienne que j'en fais à vélo, à pied, en bus et parfois en voiture, je m'en excuse. Moi, je suis arrivée en ville plus tardivement, après mes études. Voilà. Donc, ça fait plus de 20 ans, 25 ans que j'habite à Liège. Je me sens quand même un peu liégeoise. Et j'aime cette ville, voilà. Et et j'en fais partie, et je pense qu'après aussi des années d'exil en Afrique notamment, j'ai voyagé beaucoup, ben aujourd'hui, et notamment à travers le projet Liège Souffle Vert, mais avant à travers le projet des Racines aussi, donc la SBL Songe, et notre idée de s'ancrer aussi chez nous dans notre ville, moi ça m'a fait vraiment plaisir, quoi, d'avoir l'impression de m'ancrer plus dans ma vie.
Et du coup, tu disais, tu as vécu en Afrique, à Niamey, tu as vécu dans d'autres villes
Non, vivre, non. Oui, j'y suis passée. Je suis passée à Ouaga, je suis passée à Dakar, je suis même passée à Nairobi, mais voilà, ça c'est encore une autre dimension. Niamey, en fait, au Niger, c'est une ville, mais c'est un gros village, quoi, par rapport à d'autres villes, même par rapport à Dakar, ou même par rapport à Ouaga. C'est un peu un gros village où passent encore les chameaux, enfin les dromadaires plutôt, à une partie, à une certaine période de l'année. Voilà. Mais enfin, il y a quand même des dynamiques urbaines. Je pense qu'on peut quand même tirer des fils rouges entre toutes ces villes et entre une certaine culture urbaine, même si entre Liège et Niamey, est-ce qu'il y a un fil rouge ? Oui, je dirais que, allez, pour avoir vécu dans ces deux villes-là, il y a une diversité, il y a un métissage, au sens large du terme, hein, pas seulement culturel, mais aussi justement dans les modes de vie au quotidien, dans les pratiques quotidiennes, dans les petits métiers qu'on voyait fleurir à Niamey, dans la débrouille au quotidien, dans une certaine solidarité. Alors, je vais dire que dans l'une comme dans l'autre, il y a des côtés évidemment positifs de cette solidarité, donc enfin, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais...
Interculturalité.
Oui. Et alors, avec une certaine proximité, promiscuité même parfois, ici aussi, à la fois, tu as, je ne sais pas si c'est l'autre côté de la médaille, mais la solitude. J'ai justement discuté la semaine dernière avec deux mecs qui faisaient la manche là en face. Et tu te rends compte de, au milieu de cette ville, moi je connais pas tous mes voisins ici. Donc c'est vrai que tu as une proximité, une espèce de bouillonnement, de dynamisme, et puis tu as cet anonymat qui peut être salvateur parfois, et cette solitude. Et puis, je crois que... Alors, il y a quelque chose qui me relie entre Niamey et Liège. C'est le fleuve qui traverse la ville.
C'est le Niger qui passe à Niamey.
Oui, et qui coupe la ville aussi. Hein. Pas nécessairement deux parties égales, ni quoi qu'est-ce, mais tu as aussi cette partie outre-fleuve, qui à l'époque était la commune 3. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est plus la commune 3, mais c'est pas grave. Tu avais trois communes... à Niamey, la commune 1, 2 et 3. Et la 3 était de l'autre côté du fleuve. Et il y avait une vraie identité, entre guillemets, de cette commune outre-Niger. Et ben voilà, outre-Meuse ici, c'est marrant. Mais alors, outre aussi, allez, je ne sais pas, cette dynamique du fleuve qui traverse la ville, cette bouffée d'air que ça offre. Et à Niamey, je te jure que c'était une vraie bouffée d'air, parce que en mai, quand il faisait 40 degrés ou 50 à certains endroits, ce fleuve offrait quand même une petite bouffée d'air. Et ici, je trouve que quand même, à Liège, ça offre aussi une bouffée d'air. Je reste en ville, oui, pour différentes raisons. Et c'est vrai que quand je rentre de vacances, où là j'essaye toujours d'aller à la campagne, ou en tout cas en dehors du tumulte de la ville, j'aime me promener, que ce soit dans la montagne ou dans les vignes, ou dans, enfin voilà. Mais quand je rentre, je suis toujours un peu agressée par le volume sonore de la ville, ça c'est vrai, mais je ne quitterai pas la ville, je ne quitterai jamais la ville. Je ne pense pas, je pense que je suis... Je pense que je suis attachée à la ville pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle offre, pour ce qu'elle permet. Et peut-être que ça correspond aussi à mes engagements. Je peux aller faire mes courses à vélo, on peut... on n'est pas obligé d'avoir de bagnole. Enfin, je ne dis pas que si tu vis à la campagne, tu es obligé d'avoir de bagnole. Mais bon, ça devient difficile de n'en gérer qu'une ou pas. Voilà, bon...
L'erreur est trop belle.
Et voilà, notre émission maintenant se termine. Je vous remercie de nous être fidèles. J'espère que vous avez autant de plaisir à écouter notre émission que nous en avons à la réaliser. Sans plus tarder, je vous laisse sur les ondes de 48 FM avec la playlist et vous donne rendez-vous pour la prochaine émission qui sera diffusée le 13 janvier prochain en 2018. Donc, et d'ici là, je vous souhaite un très bon week-end et un bon appétit. Bonne journée à tous.